Bonjour, je suis Steve.
Et moi, on est Bunny.
Et vous écoutez Comic City. C'est notre épisode 29, l'épisode de début de mois, donc consacré à la première quinzaine des sorties du mois d'avril. On a pas mal de choses cette fois-ci, et un petit peu de librairie d'ailleurs, puisque le programme Delcourt fait que certaines choses sont sorties un peu plus tôt. Et comme d'habitude, de toute façon, on va commencer par notre section news. Première grosse news de cette quinzaine, c'est l'annonce du choix de l'acteur pour Rick dans Walking Dead. Il sera joué donc par Andrew Lincoln, qui a joué dans Love Actually, qui est un film que je n'ai pas vu, donc je ne sais pas du tout comment il joue. Je ne sais pas si tu as vu ça, toi, Benny.
Ah, du tout, du tout. C'est pas mon type de film, donc bon.
Ok, donc bon bah Andrew Lincoln, j'ai vu sa photo et bon, bah, on verra bien ce que ça peut donner. Hein,
Ouais, c'est pas le sosie de Rick, en tout cas.
En même temps, c'est vrai que c'est difficile de trouver des sosies qui accepteraient de jouer. Mais bon, enfin, je sais pas, faut voir ce que ça donne. En tout cas, apparemment, le premier épisode passera en octobre sur AMC. Donc ça nous laisse pas si longtemps que ça à attendre quand même. Ça va.
Et ce sera en 6, hein, en
Ouais,
6 épisodes déjà.
en 6 épisodes avec une possible reconduction si ça marche. Donc ça reste à voir, quoi. Mais bon, c'est franchement un projet que j'attends quand même vraiment avec impatience parce que voir Walking Dead qui bouge sur son écran. Voilà. Apparemment, il y aura le Shaun, donc ça risque d'être le début de l'histoire d'ailleurs. À voir par contre s'ils vont s'intéresser à l'histoire, enfin s'ils vont faire vraiment ce qu'on a vu dans les comics ou s'ils vont en diverger un peu, ça on sait pas trop encore.
Ouais, est-ce qu'ils vont réduire surtout? Parce que, à
Bah
mon
oui.
avis, on n'aura pas que le premier ou les deux premiers volumes, quoi. Ça va être...
Là, je sais pas, s'ils comptent peut-être faire une possible suite, ils vont peut-être pas trop aller, enfin, aller trop loin, de manière à se laisser des portes ouvertes.
Et surtout, est-ce qu'on retrouvera tous les persos? Parce qu'il y en a quand même, ouf, il y en a quand même une trentaine à force.
Ouais, mais ils sont pas tous apparus en même temps, et puis il y en a beaucoup qui meurent,
C'est vrai.
donc.
Il en faut quand même.
Donc voilà, donc bon, de toute façon, dès qu'on aura d'autres news sur Walking Dead, vous les fera partager. Et puis voilà, donc ouais, vivement, vivement octobre, hein.
Ouais, bah vivement, ouais. Non, mais moi j'attends avec impatience, déjà ne serait-ce que pour voir ce que ça donne. Par contre, on sait quel format ce sera, est-ce que ce sera de
Oh,
l'acteur,
ce sera Ah,
forcément.
ça je sais pas,
D'accord, parce que je
mais
me pose la question depuis le
ce
début.
sera du 50 minutes de toute façon, hein, comme toutes les séries américaines. Enfin,
Ok,
la
d'accord.
plupart des séries américaines, surtout du câble, c'est du vrai 50 minutes et pas du 42, enfin, voire même 55. Je pense d'ailleurs que ce sera adapté sûrement sur Canal+, en français, puisque généralement c'est Canal+, qui récupère les choses AMC, puisqu'ils diffusent Mad Men. Ils ont diffusé dernièrement Le Prisonnier version 2009.
Ouais.
Donc il y a de fortes chances que Walking Dead arrive sur Canal+.
D'accord. Ok.
Ce qui n'est pas plus mal, parce que ça colle tout à fait avec l'esprit de la chaîne d'ailleurs.
Ouais, bah à surveiller alors.
Bien, suite, tu as d'autres news peut-être au niveau cinéma, toi? Parce que moi j'ai pas grand-chose en
Niveau
cinéma.
ciné, dernièrement, on a entendu parler d'une probable adaptation de Runaways au cinéma. Alors, je sais pas si t'as vu cette info.
Pas du tout.
D'accord. Donc, a priori, Marvel vient d'annoncer un producteur, un réalisateur plutôt pour cette adaptation. Ce serait Peter Sollett qui a réalisé Une nuit à New York.
Ah, je ne connais pas du tout.
Donc voilà. Moi non plus. Hein. Non, moi non plus. Là, mais là, je découvre la news au fait au moment où je te parle. Donc ça doit être vraiment tout frais. Donc je peux pas trop t'en dire plus. Alors est-ce que c'est au stade de la rumeur plus qu'autre chose? Bon, a priori, si Marvel a trouvé un réalisateur, c'est que voilà quoi, c'est démarré en tout cas.
Il se peut que le projet échoue ensuite en pré-production ou quoi que ce
Exactement,
soit,
ouais, ça arrive souvent ça. Ouais.
mais bon. Bon, bah, à voir.
Voilà. Donc pour les fans de Runaways, j'en ai pas eu beaucoup aussi, hein, faut dire.
Moi non plus. Moi non plus. Ok, après ceci, on va passer à d'autres petites news. Wiles Portacio revient sur Uncanny X-Men.
Ah oui, j'ai vu ça.
Donc, après avoir dessiné le numéro 522, et où je ne dirai pas ce qui se passe pour éviter les spoilers, il va revenir dessiner cette fois-ci un arc complet à partir du numéro 526. Donc bon, moi je suis assez content parce que Wild Sportacio, c'est une époque, quoi. C'est l'époque John Byrne sur les X-Men au scénario, après le départ de Claremont, l'arrivée de Bishop, tout ça.
D'accord, ouais. Non, mais enfin, je comprends que tu sois nostalgiquement heureux, mais j'ai vu Wild Sportacio sur ses spawns récemment, parce qu'il en a dessiné quelques épisodes, et c'est, enfin, j'ai pas été bluffé, quoi. Il y avait quand même pas mal de cases un peu vides, où t'avais juste un perso sur un fond bleu, et franchement, maintenant, enfin, à notre époque, faire des cases sans fond, sans décor, c'est un peu, enfin, voilà.
C'est vrai que son style a évolué au fil du temps. Au début, j'aimais beaucoup son style. Je l'ai suivi un petit peu ce qu'il a fait chez Image, notamment sa série Wetworks,
Non, mais dans les années 90, tu vois, je dis
que
pas,
j'aimais
hein.
bien. Et c'est vrai que là, son style a vachement changé, est devenu à mon goût, hein, aussi. Hein. Après, ça dépend, mais moi, je l'ai trouvé moins bon. Mais honnêtement, j'ai pu voir les planches qu'il a fait sur Uncanny X-Men et c'est d'un bien meilleur niveau que ce qu'on
Ah,
avait
d'accord.
vu, en tout cas, enfin, sur le 522. Hein. Et j'ai trouvé que c'était d'un bien meilleur niveau que ce à quoi il nous avait habitués ces dernières années. Donc,
D'accord, ok.
en espérant que ce soit aussi long que ça. Moi, c'est juste vrai que le côté nostalgique que je trouve sympathique, quoi. Revoir quelqu'un qui a vraiment dessiné les X-Men pendant une petite période, une période qui était pas loin de la période de la fête à laquelle j'ai commencé à lire les X-Men en français quand j'ai débuté dans les comics. Donc voilà, c'est le petit côté nostalgique, voilà, c'est
C'est
tout.
l'émotion, c'est l'émotion.
Voilà, c'est ça. Peut-être pas la larme à l'œil quand même, mais pas loin.
Mais presque.
Faudrait pas me pousser trop, quoi.
Voilà.
Ok. Sinon, une autre news cette fois-ci pour DC. Mark Guggenheim devait prendre la suite de Greg Rucka sur Action Comics en juin à partir du numéro 890. Et finalement, il a annoncé hier. Parce qu'on enregistre, donc, enfin oui, la news va peut-être paraître un peu moins fraîche du coup, mais on enregistre le 13, donc il a annoncé ça hier, le 12, qu'il souhaitait se retirer du projet, que parce qu'il se sentait pas, il sentait pas que son projet allait bien marcher, et donc finalement ce sera Paul Cornell qui le remplace au scénario, avec toujours Pete Woods au dessin.
D'accord.
Je trouve que c'est un peu juste quoi d'annoncer ça maintenant.
Ouais.
Enfin voilà quoi, je veux dire, on est en avril pour un numéro qui devrait sortir en juin. Alors je sais pas si Paul Cornell va faire la suite, genre il a pris le premier numéro de Mark Guggenheim et puis ensuite fait la suite, ou est-ce qu'il refait complètement le 890, je sais pas du tout. Mais enfin voilà, je sais pas, je trouve qu'à 2 mois, à 2 mois de la sortie, ça me paraît juste pour annoncer ça quoi.
Parce que c'est toutes les semaines, ça?
Action Comics, non, c'est tous les mois, mais.
Ah oui, d'accord.
Mais le temps d'envoyer à l'impression, etc., enfin, ça, ils mettent du temps, quoi.
Ok.
D'ailleurs, enfin, la news, enfin, c'est tellement soudain que même DC n'a pas encore changé son site. Je suis allé voir ce matin, avant qu'on enregistre, et DC n'a pas encore changé ses sollicitations. Et c'est bien toujours Mark Guggenheim qui est annoncé sur le 890 pour le mois de juin, alors que c'est plus du tout le cas.
D'accord.
Ah, je sais pas, bon, je sais pas pourquoi il a décidé. Il a trouvé que c'était, finalement, que, enfin, il se sentait pas, de le faire.
Parce que.
Apparemment, il reviendrait sur un autre projet Superman plus tard, mais on ne sait pas plus.
D'accord, parce que Guggenheim est à la fois donc chez Marvel et chez DC en ce moment.
Je crois qu'il a quitté Marvel. Hein.
Ah d'accord, complètement, officiellement.
Je
D'accord, parce que moi
crois,
j'avais loupé ça.
je veux pas m'avancer, hein, mais je crois qu'il a. En tout cas, c'est sûr, il a plus d'exclusivité, mais je crois même qu'il a quitté Marvel et qu'il a rejoint DC.
Puisqu'il n'y a pas encore longtemps, il signait encore des épisodes de Amazing Spider-Man. Donc peut-être qu'effectivement il fait plus partie du pool scénaristique et qu'il est parti. Ok, d'accord.
Ouais, envie de changer de crèmerie un peu, après tout,
Ouais.
pourquoi pas, hein.
Non mais c'est vrai que ça change vite dans le milieu, donc c'est vrai que bon, quelquefois on voit même pas la transition en fait.
Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça surprenant, quoi, d'annoncer ça à 2 mois de la sortie du mag. C'est.
Ou bien alors justement, il repart chez Marvel. Ils ont réussi à le rattraper.
Bah, je sais pas, parce qu'apparemment, l'éditeur dont j'ai oublié le nom annonçait quand même qu'il y aurait un autre projet Superman dans un futur. On n'en sait pas plus pour le moment, donc. Mais
Ouais,
que,
mais il peut
voilà.
être sur les deux, justement, sur les deux tableaux. Peut-être que Marvel lui a proposé entre-temps un truc plus intéressant.
Peut-être, c'est possible, je sais pas. Nous, on
Voilà.
saura peut-être plus ce week-end à la convention à Chicago.
Eh ben oui, ouais.
Je crois que tu avais une news, toi, sur Bendis.
Oui, une petite news sur Bendis que j'adore. Donc, il y aura un petit. Enfin, d'ailleurs, je l'aime bien, Bendis, au fait. Il y a un nouveau créateur owned de Bendis et de Alex Maleev qui va débarquer. Alors le projet, pour le moment, on sait pratiquement rien en fait. On a juste vu une petite affiche marquée Hawks, OX, voilà, OX. Donc je pense que ça se dit Hawks tout simplement puisqu'il n'y a pas de point au milieu.
Ouais, je croyais que c'était Hawks, les faucons, mais non, en fait, c'est Hawks.
Ah non 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 non. Hawks, comme le personnage dans Spider-Man, le méchant des Enforcers. Et bah voilà, c'est tout ce qu'on sait au fait pour le moment. Donc on en saura plus sans doute ce week-end à Chicago. On connaît juste le titre, donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bah voilà, mystère. C'est alors beaucoup de comment dire de gens ont essayé de savoir, de donner une signification à ça, mais pour le moment donc c'est pas on n'en sait pas plus.
Honnêtement, un creator owned par Bendis et Maliv, ça peut donner quelque chose de plutôt sympathique, quoi.
Ah ouais, non mais complètement, complètement. Non, non, mais moi je suis curieux de savoir ce que c'est, et puis ça m'intéresserait d'en lire, effectivement. Ouais.
Ok, bah oui, donc bon bah à voir. J'espère qu'on aura quelques infos ouais, ce week-end à la convention de Chicago. Mais bon, c'est peut-être encore un peu tôt. Hein. Si le teaser a été révélé que cette semaine, ils vont peut-être attendre les prochaines conventions pour en parler. Il y avait une date ou pas pour le projet?
Non, non, du tout, non, non. Là, on sait juste que on pourrait. Enfin, ça va être dévoilé à Chicago exactement ce que c'est, quoi, en fait.
D'accord.
Donc je pense qu'ils donneront la date à ce moment-là.
D'accord. Espérons que ça ne lui fera pas prendre trop de retard sur Powers volume 3. Parce que malgré tout, Bendis, c'est un spécialiste du retard sur ses creator owned. Donc, là, je sais que pour Powers, ils avaient attendu d'en avoir plein d'avance avant de commencer à lancer la série de manière à ce que ce soit un vrai mensuel. Espérons que le fait qu'il fasse un autre creator owned ne le mette pas trop en retard.
Bah, à voir.
Pour terminer cette section news, un objet insolite que j'ai trouvé qui va être mis en vente pour la première fois cette convention-là, donc de ce week-end, la C2E2 qui se passe à Chicago, donc c'est un parfum Witchblade.
D'accord. Donc, comme ça, tu sais qu'est-ce que sent Witchblade?
Voilà, c'est un. Il y a quatre petits parfums différents dans des petites bouteilles de 5 millilitres, donc c'est vraiment pas gros, hein, c'est plus de la fragrance que du parfum d'ailleurs. Chaque bouteille est vendue 26 $,
Quand
c'est
même,
quand même
ouais.
excessivement cher, mais 5 $ seront reversés à la Hero Initiative,
D'accord.
ce qui est plutôt sympathique.
Ouais, ce qui est marrant d'ailleurs, comme initiative.
La Hero Initiative, qui est d'ailleurs, bah pour ceux qui ne le sauraient pas, une association américaine qui s'occupe de la défense des intérêts, et notamment surtout de la santé des anciens créateurs de comics qui n'avaient pas de mutuelle à l'époque, enfin, pas comme c'est aujourd'hui, quoi.
Ouais.
Donc, bah, ces derniers temps, on a pu voir, c'était John Ostrander qui avait des problèmes de vue. Grâce à l'Hero Initiative, il a pu bénéficier d'une opération qu'elle, il ne pouvait pas se permettre, vu l'état de ses finances.
Voilà,
Donc,
d'accord.
voilà. Donc, ils ont aidé pas mal de gens comme ça, et c'est une très très bonne association. Donc, 5 $ pour chaque bouteille qui sera vendue, c'est plutôt sympa. C'est un beau geste. Donc, comme je disais, il y a quatre bouteilles. Chaque bouteille a un petit visuel différent et a une odeur différente, bien entendu. Il y a une bouteille Sarah Penzini.
Ouais.
Il y a une bouteille Witchblade.
D'accord.
On a une bouteille sur le détective Patrick Gleason. Et
Je dois voir une odeur. Ok, d'accord.
une quatrième et dernière sur The Curator. Bon, alors moi, je ne suis plus Witchblade, donc je ne sais pas absolument pas qui c'est.
Ah, The Curator. Bah moi non plus, du tout. Mais par contre, vu le nom qu'il a, le parfum doit être assez bizarre, je pense.
Ouais, c'est apparemment un mec un peu alchimiste, etc. Donc ce serait plutôt des senteurs assez herbes, d'après ce que j'ai
D'accord.
pu lire. Pour Patrick Gleason et The Curator, c'est plus un parfum pour les hommes, tandis que Sarah Penzini Witchblade, c'est plus un parfum destiné aux femmes.
Bien sûr, ouais.
D'ailleurs, la boîte qui s'occupe de ça, parce qu'elle est en partenariat avec Topco, elle s'appelle Black Phoenix Alchemy Lab. Ils ont un site, c'est blackphoenixalchemylab.com, tout attaché. Hein.
D'accord.
Et apparemment, donc, ils disaient que le parfum Sarah Penzini et le parfum Witchblade sont prévus pour être portés ensemble pour faire un mélange d'odeurs, mais peuvent aussi être portés séparément.
OK.
Ils expliquaient un petit peu ce à quoi ça sentait. Je trouvais ça
D'accord.
presque plus ridicule. Je vous mettrai de toute façon une photo. J'ai une photo des quatre bouteilles, donc je vous mettrai ça sur l'article pour le podcast, pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent les petites bouteilles et voir vous rendre compte à quel point c'est petit.
Bah oui, d'ailleurs, ça me fait penser que donc ça veut dire quand même, c'est quand même une grosse révélation, ça veut dire que Sarah Pedini, quand elle se changeait en Witchblade, elle changeait d'odeur. Ce qui est très important, puisque on se dit, enfin moi je me disais, je me faisais la réflexion l'autre fois, je me disais, si Spider-Man pue, eh bien si Peter Parker sent la même odeur que Spider-Man, c'est quand même gênant. On pense pas à ces choses-là quand on lit un comics. Mais Dieu sait si on peut reconnaître une personne à son odeur.
Oh bon, voilà, j'ai trouvé que c'était assez drôle de sortir ça. Et donc voilà, c'est le début de première mise en vente, donc ce week-end à la convention de Chicago.
Ok.
Sur un stand dédié, attention. Ça ne rigole plus.
Ah non.
Bien, voilà, je crois que c'est tout pour nos petites news, hein. Tu n'as rien de.
Ah
Tu
bon,
n'en as pas une
non.
autre sous le coude.
Non, parce que
Voilà.
après, ça va être des news qui vont qui risquent de lorgner vers du côté, enfin du côté du spoiler, donc
Alors, on va éviter.
on va éviter. Ouais.
Ok, donc on va s'attaquer maintenant à nos reviews. On commence ce mois-ci avec Spider-Man numéro 123, qui contenait 4 épisodes d'Amazing Spider-Man, pour une fois. Donc, on dirait qu'ils ont un peu l'intention de rattraper un petit peu le retard. Déjà, ça, c'est vraiment appréciable.
Ouais, c'est bien pour une fois.
Plutôt que des backups tout pourris. Quoique certains ne sont pas si pourris que ça, mais c'est vrai que au moins on a 4 Amazing, donc ça c'est déjà bien. On
Voilà.
commence par le premier arc, peut-être. Ce sera plus simple. On va le traiter
Oui.
en un seul bloc. Donc c'est Amazing Spider-Man numéro 592 à 594. L'arc s'appelle en anglais 24-7, ce qui veut dire en français 24h sur 24, 7 jours sur 7.
Voilà.
En anglais, on raccourcit 24-7, ça va plus vite.
Alors, ils l'ont traduit en chez Panini par non-stop.
Ouais, bon, c'est une très très bonne traduction. Mark Waid au scénario, Mac Mycon au dessin, accompagné de Barry Kitson sur le 594, et Andy Lanning à l'ancrage, accompagné de Kiesel pour le 593 et de Morales pour le 594. Donc, Spider-Man a décidé d'être Spider-Man à plein temps.
Oui.
Voilà, grosso modo, le pitch de l'histoire, en très
Oui.
très très résumé.
En très 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 résumé, il a décidé d'être Spider-Man à plein temps pour embêter Jameson.
Voilà, puisque Jameson continue sa campagne anti-Spider-Man.
Ouais. De toute façon, on le sait depuis le mois dernier, Jameson est surtout le nouveau
Maire,
maire.
ouais, le maire de New York. Alors ça, si c'est pas une super bonne idée quand même.
Ça, c'est une bonne idée, oui. Ça, c'est enfin, tu vois, un bon truc qui peut donner lieu à de bonnes situations marrantes.
Parce que c'est vrai qu'il était un petit peu en retrait ces derniers temps, et là, ils lui ont trouvé vraiment quelque chose à faire, quoi. Et quelque chose qui risque d'avoir vraiment une incidence sur la vie de Spider-Man.
Ouais.
Donc je sais pas. Malgré tout, ça me pose quelques soucis, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc, je sais pas, il y a pas mal de choses qui sont sympathiques dans cet épisode, et il y a aussi des choses qui sont totalement horribles.
Ouais.
Vas-y, je te laisse y aller.
Non, mais alors déjà, bon, c'est la seconde fois, je crois, que Mark Waid est au scénario, hein, depuis qu'il a rejoint le pool de scénaristes. Et donc, là, c'est en trois parties. Qu'est-ce qui se passe dans cet arc? Donc, comme tu disais, Spider-Man essaye d'embêter Jameson en étant Spider-Man à plein temps. Donc, ce qui lui vaut pas mal de petits soucis. Bon, on passe les petites scènes rigolotes où il aide les passants à rattraper un chat, etc., quoi. Mais sinon, à côté de ça, il y a un nouveau méchant qui fait son apparition.
Ouais, une sorte de nouveau vulture.
Voilà, une espèce de. C'est un mélange au fait, je dirais, entre le vautour et Morbius.
Qui a un look très. Alors pour ceux qui se rappelleront de Génération X, qui remonte à un sacré paquet d'années, qui a un look assez chamber pour cacher sa bouche.
Ah ouais, complètement, ouais. Tiens, j'avais pas pensé à ça, ouais, c'est vrai.
Il se
Oui,
cache
oui.
avec un espèce de col roulé qui monte super haut et qui monte devant sa bouche. Et moi, ça m'a fait tout de suite penser à Chamber, en fait. Mais bon, enfin, c'est vraiment. Ça m'a fait penser. C'est pas non plus du plagiat, hein, loin de là. Hein. Mais voilà, j'ai trouvé ça sympathique, quoi.
Enfin, sur ce nouvel ennemi, pour le moment, on sait très peu de choses sur lui. Bon, il est assez flippant. Rien à voir avec Eugène Toomes, l'ancien vautour.
Ah bah il tue, tout simplement. Donc
Oui, il tue. Il tue. D'ailleurs, c'est quand même assez violent, mine de rien, certaines scènes, quoi. Ça m'a un petit peu. Bon, enfin, ça m'a pas choqué non plus, mais c'est assez marrant parce qu'on part de trucs totalement légers dans ces épisodes, et puis on arrive à des scènes un peu plus bien plus trash, quoi, bien plus effrayantes pour un jeune lectorat, je dirais. Donc bon, je sais pas trop enfin quelle est la cible actuelle des épisodes, quoi, on va
Bah,
dire.
c'est peut-être une volonté de Marvel, puisqu'il y a des Marvel Adventures, Spider-Man Adventures et compagnie, de faire en sorte que Amazing Spider-Man s'adresse plus à un public un peu plus âgé, adolescent, voire adulte, et de laisser des petites histoires dans les familles, ce genre de choses-là. Parce qu'il y a tellement de choix, en fait, que c'est pas plus mal peut-être de cibler un peu les publications et nous faire quelque chose d'un peu plus rentre-dedans. Tant que ça reste comme ça, quoi. Ça va encore.
Exactement, ouais. Et le dernier point, c'est qu'il y a aussi une aventure sentimentale qui naît dans cet épisode, dans cet arc.
Oui, enfin
Voilà.
qu'on voit, puisque c'est vrai qu'il y a eu il y a quand même eu un bond de 2 mois dans l'histoire, suite à la dernière aventure avec les Quatre Fantastiques où ils sont passés dans cette dimension. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 mois? On en a vu un petit peu quelques scènes par-ci par-là. le mois dernier, et on va en découvrir d'autres, à mon avis, tout au long des prochains mois, sur ce qui s'est passé pendant ces 2 mois. Et donc là, on a quand même une romance qui est née entre le père de Jameson et Tante May.
Ouais, Tante May.
Avec une
Et
scène horrible.
dont une scène horrible où en fait Peter Parker découvre les deux au lit et est aussi choqué que nous d'ailleurs, je pense, à la fin de l'épisode. C'est à la fin de la première partie, je crois.
Ouais, c'est atroce. Ah, mes yeux, je suis aveugle.
Ouais, non, ça m'a fait rire, ça m'a fait rire. Mais alors, il a quand même, au fait, c'est ça qui est assez énervant dans les Spider-Man en ce moment, c'est qu'il a un petit côté préadolescent ou adolescent, Peter Parker, par moment. En fait, il devrait être super content pour sa tante, mais là, bon, il réagit un petit peu comme un gamin, quoi.
Ouais, mais enfin, il le dit très bien quand même qu'il est content pour elle. Il a du mal. Il a du mal, mais je pense que c'est comme beaucoup d'enfants, si leur mère refait leur vie après un divorce ou un veuvage, c'est toujours difficile d'accepter quelqu'un d'autre, remplacer son oncle Ben, qui en plus pour lui a tellement apporté avec à grand pouvoir, grande responsabilité. C'est sûr que ça va être difficile. Surtout qu'en plus, c'est un Jameson.
C'est vrai, ouais, il y avait de ça aussi. Mais
Mais.
tu vois, ça fait un petit peu retour en arrière, parce qu'entre-temps, on sait tous que Tante May a eu plusieurs autres relations, et que d'habitude, Peter est toujours plus ou plutôt content. Et là, tu vois, vu que maintenant, Peter Parker n'est plus un homme marié, ça y est, tu vois, il a déjà plus de balles, on a
Il y a un
l'impression
côté
que...
régression, hein, le fait qu'il soit plus marié, justement, on
Voilà, ouais,
revient.
c'est ça, quoi. J'ai l'impression qu'il a régressé quand même pas mal. C'est-à-dire qu'il y a quand même plein de thèmes comme ça. Et puis oui, il y a aussi un nouveau truc aussi. Il a une nouvelle coloc, qui est au fait la sœur de son ancien colocataire, Vin Gonzalez. Elle s'appelle Michelle Gonzalez, je crois.
Oui, ça doit être ça. J'ai pas retenu
Et
son
non
nom,
pas
j'ai pas marqué.
Speedy. Oh,
Oh, oh là là.
la vraie blague pourrie,
Oh.
là. Avis aux amateurs, donc. Donc c'est une scène aussi assez drôle aussi, la rencontre entre les deux.
Donc, comme on disait, il y a des trucs sympathiques, hein, le fait de voir Peter Parker, enfin en tout cas Spider-Man, faire des choses mais vraiment ridicules, quoi. Sauver des chats, je veux dire s'occuper de la pollution
Faire des parapluies.
auditive, ouais, faire des parapluies pour les gens,
Biodégradables en plus. Parapluies,
prendre
précisé.
des photos avec le public.
Oui, voilà, oui.
Il y a une acceptation qui est hyper rapide des gens, et c'est normal après tout ce qu'il fait pour eux depuis le temps. Et le côté en fait Jameson qui va absolument descendre, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop.
Un peu too much, oui, j'allais dire exactement la même chose, parce qu'en plus, il y a son espèce d'équipe d'extermination qui débarque à toute vitesse, limite, tu vois, pour le buter, quoi, tout simplement. Ouais, j'ai trouvé ça un petit peu, et puis pareil, c'est un peu régressif, parce qu'au fur et à mesure du temps et des années, Jameson avait accepté de plus en plus Spider-Man, voilà, quoi, et maintenant, on est retourné depuis Brand New Day à la case départ, où Jameson déteste totalement Spider-Man.
Un autre petit truc qui m'a fait rire, c'est au tout début de la première scène où on voit Jameson et son père discuter, et où il y a Spider-Man qui les espionne en fait, enfin en tout cas qui est à la fenêtre de Jameson en train d'écouter ce qu'ils disent. Il est en train de manger du pop-corn, et le nom du pop-corn m'a fait rire parce que c'est Oscorn.
Ouais. Alors attends, je vais regarder s'ils ont. Ah oui, Oscorn, ouais. J'avais
Et
pas vu.
c'est con, c'est vraiment juste un visuel, mais j'ai trouvé ça drôle parce que c'est. Voilà, c'est une petite blague déguisée avec un Spider-Man qui en plus se moque de. Allez-y, continuez de me passer de la pommade. C'est très drôle, quoi.
Ouais, non mais globalement en plus les dialogues sont sympas, c'est assez drôle. Il y a de l'action, franchement non, c'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment l'un des meilleurs arcs, je pense, depuis le début de Brand New Day, carrément.
Une petite chose aussi bizarre, c'est quand même la demande en mariage du père de Jameson à Tante May.
Ah oui?
Elle est quand même super rapide.
Ils se sont connus durant les 2 mois où Peter Parker était absent,
Ouais,
donc
mais
au
comme ils
fait, quand
disent,
tu regardes.
ils sont ensemble depuis 1 mois. Alors,
Ouais,
je veux bien
mais.
comprendre qu'ils soient vieux, qu'ils n'ont pas trop de temps à perdre, etc. Mais le fait qu'ils veuillent à ce point se marier avec elle, etc. Enfin, je sais pas. Je me demande s'il n'y a
Oh,
pas
bah,
quelque chose de louche là-dessous.
t'as déjà eu un amour de vacances, tu sais, en 1 mois, t'as l'impression que t'as passé 1 an avec la personne et tu la connais. Mais voilà, quoi.
Ouais, mais je sais pas. Moi, pour moi, il y a quelque chose de louche là-dessous. Je peux peut-être me tromper, mais je sais pas. C'est bizarre. Ça me
Ah,
paraît bizarre, en tout cas.
tu penses qu'il veut l'épouser pour une raison, une mauvaise raison?
Pas forcément pour une mauvaise raison, mais peut-être, je sais pas, pour avoir. Bon, là, ce serait pas le cas, mais peut-être pour une nationalisation ou un truc dans le genre, tu vois. Je sais pas. Mais ça me paraît tellement soudain que je sais pas, je me demande si c'est bien normal, si c'est pas, il n'y a pas autre chose derrière.
Ah, moi je lui accorde toute ma confiance à Jameson, c'est bizarre ça. Enfin, Jameson père, hein,
Oui,
bien sûr.
Seigneur.
Oui.
Au final, ce qui est dommage, c'est qu'on est un petit peu retour à la case départ où Spider-Man est de nouveau un peu haï par le public.
Un peu trop facilement, mais pas tant que ça, parce qu'au fait, les gens normaux le défendent d'ailleurs. Enfin, les citoyens le défendent là, justement, contre Jameson.
Ouais, mais à la fin de l'arc,
Ah oui, c'est vrai, oui.
il y a un retour à vraiment la case départ
Ouais,
où
mais
les
c'est un
gens.
côté. Voilà, c'est le côté un peu too much dont je parle parfois, et bah là voilà quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les scénaristes font comme dans les anciennes histoires où ça se termine toujours pareil, tu vois. Genre à la fin, Spider-Man était haï par tous et il disait ah, dorénavant je vais me venger, je serai méchant, tu vois.
Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'à l'exception de quelques arcs, comme on a eu New Ways to Die, ou là dont on va parler American Son, qui modifient un petit peu l'histoire et qui font avancer les choses, chaque fois qu'un scénariste passe pour faire un arc ou un fill-in, bah, il fait son histoire, mais il remet les choses en place telles qu'elles étaient à la fin, de manière à ce que ça gêne pas les suivants. C'est un peu l'impression que ça me donne, en fait. Et que donc, bah, à part ces gros arcs, on n'avance pas tant que ça, puisque bah, on range bien les jouets à la fin de manière à ce que ce soit pas le bordel pour celui qui arrive et qui n'ait pas à tenir compte de ce qui s'est passé avant.
Ah, c'est vrai qu'on n'avance pas, parce que si tu regardes par rapport au nombre d'épisodes qu'il y a eu en 2 ans, parce que ça va faire bientôt 2 ans que c'est commencé Brand New Day, bah il s'est pas passé grand-chose hein, quand tu résumes les gros événements. Bon là ça commence à bouger parce qu'on s'approche de l'épisode 600 en fait, faut dire. Donc voilà.
Ah bah
Donc
oui, on
c'est
s'y approche à grands pas, oui.
on s'y approche à grands pas et c'est pour ça que ça devient peut-être pas mal. Donc est-ce qu'après ça va garder ce niveau-là?
L'avenir le dira. On va
Voilà.
passer au deuxième épisode, justement, qui est donc un nouvel arc qui va faire un peu bouger les choses, qui s'appelle American Son. C'est le Amazing Spider-Man numéro 595. Le scénario est de Joe Kelly, les dessins sont de Phil Jimenez et l'ancrage est de Andy Lanning. Alors là, on a un épisode qui est vraiment, vraiment. Moi, je l'ai trouvé vraiment pas mal, en tout cas.
Ah oui, très bon, ça me rappelle la grande époque, ça.
Un épisode où il se passe pas grand-chose. Enfin, si. Il y a une bonne scène d'action à la fin, mais le reste, c'est plus du dialogue. Et tout est là-dedans, quoi. Tout est dedans.
Non mais c'est là où c'est bon, c'est que ça revient à voilà, là il y a totalement le côté SOP des anciens épisodes de Spider-Man. Avec pas mal de personnages qui dialoguent, comme tu dis. Il n'y a pas beaucoup d'action et pourtant, voilà quoi, ça avance bien. Et alors, juste un truc quand même qui m'a semblé un peu forcé, c'était justement à la fin de l'arc précédent qui introduit American Son, qui introduit ce nouvel arc. D'un seul coup, t'as Spider-Man qui se dit comme ça sous la pluie, oh bah finalement c'est pas à cause de Jameson que je suis énervé, c'est Osborn. C'est Osborn, j'en veux à Osborn. D'un seul coup, je vais essayer de traquer et de descendre
Ouais,
Osborn.
mais il se rend compte aussi, bon, il a passé déjà 2 mois ailleurs, hein, il y a 2 mois qui sont écoulés, donc il a pu voir que Osborne avait pris de l'emprise sur la vie en général pendant qu'il n'était pas là. Donc je pense qu'il est en train de se rendre compte que Osborne gère tout maintenant, chose qu'il n'avait pas eu le temps forcément de se rendre compte depuis la fin de Secret Invasion.
Ah, c'est vrai que maintenant que tu le dis, dans New Ways to Die, il en était encore simplement comme Osborn était encore simplement le chef des Thunderbolts. En fait, il n'était pas encore le chef du Hammer, je pense.
Bah ouais, donc
C'était pas encore. Ah oui, c'était pas encore les Dark Avengers. Donc, ouais, effectivement, on peut avoir cette explication-là,
moi
effectivement,
c'est comme
que
ça que je
ça s'est
l'ai vu en
passé durant
fait,
les
hein.
2 mois. Ah ouais, d'accord. Ouais, j'avais pas vu ça, moi, en fait. J'avais pas vu ça comme ça, donc effectivement, les 2 mois de qu'on n'a pas vu, ça peut être les 2 mois durant lesquels Osborn a pris le pouvoir. Effectivement, ouais.
C'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte combien de temps passe exactement avec les comics. Pour nous, il s'est passé 6 mois, mais dans les comics, c'est pas forcément passé 6 mois, il s'est passé des fois 3 semaines.
Et puis oui, et puis c'est d'autant plus difficile avec Spider-Man, parce qu'il est toujours un petit peu en décalage par rapport au reste de l'univers Marvel quand même. Hein. C'est justement c'est à partir de là où
Ah,
on se rend compte qu'on est dans le Dark Reign.
et puis avec trois épisodes par mois aussi, ça change pas mal de choses. Là où les séries normales avancent que d'un, lui il avance de trois, donc. Il y a aussi ce décalage-là. On a l'impression d'avoir lu beaucoup d'épisodes depuis que c'est le début du Dark Reign, mais en fait, en nombre de mois, non.
Ouais, et
Donc.
puis il y a aussi une distance, quoi, une distance volontaire par rapport au reste de l'univers Marvel pour pas de commettre de bourde, parce que forcément en avançant plus vite, bah c'est difficile.
Voilà.
Donc sur l'épisode.
Ah, il y a déjà tout le scène de départ avec Wolverine, que je trouve mais magistrale, où on a des références ciné à presque toutes les phrases, et notamment une. où, qui m'a fait vraiment rire. Alors je sais pas si elle a été traduite comme ça en français, où il y a Wolverine qui lui tape sur la tête et il lui dit en anglais, You don't McFly someone with adamantium fingers. Donc en gros, ah, c'est intraduisible en fait, parce qu'ils ont fait un verbe du McFly de Retour à le futur quand on lui tape sur la tête. Hey McFly! Voilà, bon, et j'ai trouvé ça super drôle en fait, parce que j'adore Retour à le futur, bien sûr, je pense comme beaucoup de monde, et le fait d'avoir fait un verbe de McFly, ça me fait drôle, ça me fait rire, voilà.
Alors attends, j'essaie de retrouver, voir, parce que là je vois pas du tout McFly cité, mais ça me dit quelque chose. Mais quand il lui tape sur la tête, moi c'est marqué, c'est Peter Parker qui lui dit, j'espère que t'as pas la trouille parce que ça pourrait tourner à Reservoir Dogs. Donc
Ouais,
il parle
bon,
de Reservoir
c'est une
Dogs.
autre référence, mais moi personnellement je préfère le Retour à le futur, mais bon, après, chacun ses goûts.
Ouais.
Voilà, mais ça m'a fait rire. Un autre truc, par contre, que j'ai trouvé très étrange, c'est le fist bump qu'ils se font sur quand ils parlent de Bush. Un fist bump, c'est quand on se cogne le poing en anglais. Hein,
Ouais, c'est une sorte de check, mais
ouais,
sûr.
voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est ces mots que je cherchais.
D'accord.
Alors, il parle du fait que Bush, il a mis 8 ans à partir de la Maison Blanche, mais ça y est, il est parti et ils se font une petite vanne. Donc, c'est très très left-wing en fait, c'est très côté gauche américain, enfin si on peut appeler ça la gauche, mais c'est très pro-Obama en fait.
Ouais. Bah, comme dans beaucoup de comics Marvel actuellement, hein. Il est très présent et on a l'impression qu'il est assez apprécié chez Marvel.
Mais alors c'est là que moi ça m'a gêné, tout simplement parce que bon, Marvel s'est jamais caché d'aimer Obama, la preuve avec carrément le numéro spécial Obama. Maintenant, vous avez peut-être pas entendu parler de cette histoire, mais dans le Captain America numéro 602, il y a eu tout un bordel qui s'est passé sur le net à cause de ce qui s'est passé. Il y avait une manifestation dans l'histoire. Bon, je vais pas spoiler, hein, vous inquiétez pas. Et cette manifestation, le dessinateur, je sais plus qui c'est d'ailleurs, avait fait des banderoles, etc. Et sur les banderoles, en fait, ça ressemblait aux banderoles qu'il y avait sur la Tea Party, qui est un parti politique qui émerge à nouveau en fait aux États-Unis depuis 1 ou 2 ans, depuis l'arrivée d'Obama en fait,
Ouais.
qui est contre Obama, qui est contre la réforme de la sécurité sociale, etc. Et les gens en fait de la Tea Party ont trouvé que les banderoles qui étaient affichées dans ce comic étaient les banderoles de manifestation qu'il y avait contre la Tea Party, contre cette association politique.
Ouais.
Et donc ils ont hurlé au scandale en disant que c'était pas normal. Et Joe Quesada s'est excusé de
D'accord.
ça, en disant que
OK.
voilà, c'était pas de sa faute, machin, qu'il était désolé. D'ailleurs même, je crois que le dessinateur s'est aussi excusé en disant qu'il avait recherché des manifestations sur le net, des photos. Il a pris la première photo qui lui paraissait correspondre avec la scène et il a recopié sans forcément faire attention vraiment ce qu'il mettait. Bon, ça c'est de l'explication de pacotille. Mais c'est là que, en fait, ça me gêne, c'est que d'un côté, on donne un côté très gauche, puisqu'on se félicite de l'arrivée d'Obama, etc.
Ouais.
Et quelques mois plus tard, en tout cas par rapport à la sortie de Amazing Spider-Man 595, dès que c'est quelque chose un petit peu anti-droite, on va dire, puisque c'est quand même assez droite dure là-bas, l'association Tea Party, on fait des excuses en disant non, finalement, on ne veut pas favoriser la droite, Marvel est apolitique, etc. Alors, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est l'arrivée de Disney qui a changé? Est-ce que ce sont les têtes pensantes à Marvel, certaines têtes pensantes qui ont changé? Je sais pas. J'ai trouvé que c'était un petit peu contradictoire avec cet aspect-là. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui est tout à fait en dehors du comique, lui-même. Mais voilà, moi, ça m'a surpris, en fait.
Bien alors, c'est tout simplement qu'il y a des gens qui ont remarqué, qui ont remarqué un truc dans Captain America et qui là sont passés outre sur Amazing Spider-Man, quoi. Ils sont peut-être pas
Ouais,
restés
enfin,
fixés
c'est quand même super flagrant, quoi. Je veux dire, on a
là-dessus.
une
C'est quand même
case avec un
super
fist
flagrant.
bump et uniquement un fist bump sans dialogue, sans rien. C'est quand même. Bah, ben, je
C'est
sais
vrai.
pas. Je trouve que c'est deux façons de faire vachement différentes à quelques mois d'écart. Et moi, pour moi, l'explication, c'est que avec Disney, on veut plus du tout parler de politique.
D'accord, ah, peut-être, ouais.
Enfin, pour moi, ce
Peut-être.
serait ça. Maintenant, je sais pas.
Enfin, faut voir si Obama réapparaît dans certains comics prochainement. Et alors, je sais pas, au fait, justement, maintenant que tu dis ça, il y a un truc qui m'a toujours interpellé dans les éditos de Panini. Souvent, ils disent que c'est Bush qui a mis au pouvoir Norman Osborn. Et alors, je me demandais si c'était leur invention ou si c'était dit un moment dans les comics, quoi.
Je suis en train de réfléchir, mais je crois que c'était juste avant l'accession au pouvoir d'Obama que Dark Reign est sorti, donc je crois que c'est Bush, oui.
Ouais, mais enfin, est-ce que c'est dit précisément dans les comics que c'est Bush? Est-ce qu'il est nommé?
Non, il n'est pas nommé, mais c'est quelqu'un qui lui ressemblait assez, je crois.
Ah d'accord, ouais, non, mais parce que
Je
dans
crois. Ça
les...
mériterait vérification de Dark Avengers numéro 1 ou de The Cabal, peut-être.
Ces derniers mois, il y avait pas mal d'intros faits par des gens de Panini qui nous disaient donc que c'était le Dark Reign et que Norman Osborn avait été nommé par Bush et qu'il avait été
Bah
mis au
d'ailleurs,
pouvoir par lui.
si tu te rappelles bien, il y avait eu un épisode des Thunderbolts, bah juste au tout début du Dark Reign, celui où il expliquait où il était dans le même avion qu'Obama, et c'était la première rencontre entre Obama
Ouais.
et Norman Osborn. Donc non, je crois que c'est bien ça, je crois que c'est Bush, hein, oui, effectivement.
D'accord.
Il faudrait revérifier le Dark Reign numéro, enfin le Dark Avengers numéro 1, je pense
Ok.
pour ça, mais là je l'ai pas sous la main, donc je vais pas pouvoir le faire, mais ouais, je crois que c'est ça, hein, je crois que là il se trompe pas du tout. Hein.
D'accord, ok. Non, et parce que dans ce cas-là, effectivement, il donne à Bush vraiment le rôle du gros méchant qui a nommé Osborne, quoi, au pouvoir. Donc c'est aussi assez marrant, quoi. On va revenir à l'épisode, je pense.
Donc il y a en fait une espèce de petite sauterie organisée en l'honneur du futur mariage entre May et Jameson Senior, et avec Jonah Jameson, donc Junior, qui pète les plombs de savoir que Peter Parker va devenir son beau-frère, lui
Du coup,
le petit photographe qu'il a toujours exploité.
ouais, non
Ça
mais.
donne lieu à des dialogues assez drôles quand même entre les deux. Hein.
Ça donne lieu à des dialogues assez drôles, et puis comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le retour à l'aspect soap qui était si cher à Spider-Man il y a quelques années, quoi, et qui s'était un petit peu perdu récemment. Et là, franchement, la scène est vraiment pas mal. Et puis donc se rajoute à ça Harry Osborn
Bien
et
sûr.
surtout Norman Osborn.
Qui débarque à la petite sauterie.
Voilà, qui débarque, et ça fait penser vraiment à une vieille scène de Spectacular Spider-Man numéro 2, je sais pas si tu vois de quoi je parle.
Oula, non. Là, comme ça,
Enfin,
non.
c'était non, mais c'était à l'époque, au fait, le magazine des années 60 qui s'est arrêté au bout de deux numéros. Il y avait une vieille histoire avec le Bouffon Vert dessinée par Romita et scénarisée par Stan Lee, où t'avais Gwen Stacy, Mary Jane, Peter Parker, etc. Ils étaient tous chez Norman Osborn et il y avait une scène comme ça où ils étaient tous à table où Norman Osborn faisait le show, quoi, entre guillemets. Et ça me faisait vraiment penser à cette scène-là, en fait.
Ben non, là je franchement ça me dit rien du tout cet épisode-là, tu vois. Donc mais
Bah
bon oui,
écoute.
c'est fortement possible, hein,
Ouais.
je te crois sur parole, il n'y a pas
Bah,
de souci.
les gens qui connaissent l'épisode sauront de quoi je parle de toute façon. Enfin voilà quoi. Et donc la scène est vraiment bien foutue et enfin surtout on a Peter Parker qui décide de confronter Norman Osborn puisque depuis le début au fait du Dark Reign on se disait où est Spider-Man quoi là-dedans puisque c'est quand même le pire ennemi de Spider-Man. Donc enfin voilà une confrontation entre Spider-Man et Norman Osborn.
Parce qu'en fait, Norman débarque surtout pour voir Harry, qui ne lui renvoie pas ses appels, enfin qui ne répond pas à ses appels et qui ne le rappelle jamais alors qu'il lui demande de le rappeler, puisqu'il voudrait le faire travailler pour sa société, et Harry n'a pas envie. Donc quand Spider-Man décide d'attaquer Norman, il y va franco.
Ouais.
D'ailleurs, ça me rappelle au tout début la scène avec Wolverine où il parle qu'il avait la possibilité de le tuer plusieurs fois, mais qu'il ne l'a jamais fait et que la prochaine fois il le tuera. J'ai trouvé que c'était un petit peu
C'est pas
bizarre en fait.
Oui, c'est pas Spider-Man. Spider-Man ne tue pas de toute façon.
Voilà. Et là, il attaque clairement Norman en lui arrachant le toit de sa limousine, etc. Et je sais pas, j'ai trouvé que ça faisait pas Spider-Man. Je peux comprendre qu'il pète les plombs, mais je trouve que
C'est un peu trop vite au fait. Là, il lui casse la gueule vraiment pour rien quoi, j'allais dire, puisque Norman Osborn n'a pas changé par rapport à la dernière fois qu'on l'a vu.
D'ailleurs, on
La
a une
dernière fois.
superbe scène hein, à ce moment-là qui est la couverture d'Amazing Spider-Man 39, mais inversée.
Ah oui, ça aussi, ça c'était très bon, ça j'ai bien aimé ça. Ouais, très bonne idée aussi, effectivement.
Parce que dans cette couverture-là, on avait le Green Goblin qui tirait un Peter Parker, enfin un Spider-Man démasqué, et là, c'est l'inverse.
Ouais, très bonne planche. Ouais,
Ah ouais, franchement,
vraiment.
superbe.
Ouais, très très bonne. Mais non, la dernière fois qu'il lui a cassé la gueule comme ça, c'était à l'époque, c'était dans Spider-Hunt. Donc à l'époque de, c'était après la saga du clone en fait, où Norman Osborn vraiment faisait de la vie de Peter Parker un enfer, mais où Norman Osborn était vraiment omniprésent quoi. Et là, maintenant qu'il est plus là, on le voit quasiment pas, il embête quasiment plus Spider-Man. C'est assez étonnant cette réaction, quoi, de le voir d'un seul coup péter les plombs et venir lui régler son compte comme ça. C'est un petit peu rapide,
Bah
ouais.
surtout devant tout le monde avec des témoins potentiels. Enfin, voilà, ça me paraît un petit peu trop. Bon, de toute façon, c'est l'histoire comme ça, donc c'est pas comme si on avait vraiment le choix. Mais on verra jusqu'où ça va aller, quoi. On ne parlera pas de la fin quand même, avec une fin surprenante. Juste que on a le retour d'un autre perso.
On a le retour d'un autre perso, on a une grosse révélation à la fin aussi.
Ouais, bah c'est celle-ci que je veux pas qu'on parle.
Voilà.
Voilà. Donc, bon, on en parlera le mois prochain. Je préfère que les gens
Ouais, on
découvrent
en
cette
parlera le mois
fin.
prochain parce que c'est vraiment un épisode qui introduit donc ce nouvel arc. Et ça s'annonce bien quand même.
Oui, ça s'annonce très très bien.
C'est vraiment là, ça devient très intéressant. Et ce qui devenait vraiment rare, quoi. Donc bon.
Le pari est bon puisque, enfin, moi en tout cas de mon côté, j'ai vraiment envie de lire la suite. J'ai hâte de lire la suite d'American Son. Donc, bon. Voilà, je pense que le pari est vraiment réussi là, encore une fois.
Alors, pourquoi American Son? Ça aussi, bon, pour le moment, voilà. Les gens verront s'ils arrivent à comprendre pourquoi ce titre.
Plus de détails, parce que de toute façon c'est un arc en 5 parties, il hein, faut le savoir. Donc là on a la première partie. Donc
Donc je pense que le mois
d'ailleurs,
prochain, on pourrait avoir tout le reste, en fait.
je suis pas sûr parce que je crois que le dernier était, il y en avait un qui était pas un double d'ailleurs.
Ah non, non, du tout.
Bon alors il se peut qu'on ait peut-être la fin le mois prochain, je sais pas. À moins qu'ils nous en publient 3 et qu'ils nous mettent un backup pour faire
Alors,
durer, je sais pas.
tout ce que je sais, c'est que en juin, normalement, on devrait avoir le 600. Donc, si en juin on a le 600, il y a de fortes chances qu'ils nous fassent tous les épisodes, enfin toute la suite, le mois prochain, quoi.
Oui et
Parce
non, ils
que,
peuvent très bien nous coller le 599 et le 600 dans le même mag.
ouais.
Ça rentre largement, puisqu'on sait très bien que Panini ne publie pas tout l'équivalent du 600 dans. Enfin, en tout cas, au niveau page américaine, dans un magazine français, puisqu'il y a des petits backups, il y a des trucs qui ne servent pas à grand-chose. Donc, on a vraiment l'histoire principale, peut-être une petite histoire supplémentaire, on n'a jamais tout un numéro spécial.
Ouais, c'est vrai. Ouais, faut voir. Ben, en tout cas, enfin, dans la preview, voilà, il parle que de Au nom du Fils, hein, puisque c'est la traduction française. Mais non, il parle que de ça, en fait. Donc, je sais pas s'il y aura d'autres choses, en fait, le mois prochain.
On verra bien. Allez, on passe au dernier mag estampillé Avengers, on va dire, avec Marvel Heroes numéro 30. Premier épisode de ce numéro, c'est le Hulk numéro 13, qui s'appelle Hulk No More. Scénario Jeff Lobb, dessin Ed McGuinness, ancrage Tom Palmer. Alors, c'est vraiment la suite directe du Hulk 600 qu'on a eu le mois dernier, enfin
Ouais.
du Incredible Hulk 600, exactement. Avec un Bruce Banner qui est en proie à faire le deuil de Hulk,
Ouais.
puisqu'il n'est plus Hulk. Franchement, je trouve que l'épisode part super bien. J'étais dedans et je me suis dit, waouh, c'est vachement sympa. Bon, on a le retour de A-Bomb qui vient voir son ami Bruce, puisque c'est Rick Jones. Et après, ça vire à la baston quand Ares arrive, sur les
Bon,
ordres d'Osborn, bien sûr, hein,
ouais, mais enfin ça reste raisonnable, tu vois, c'est pas le côté énervant chez Jeff Loeb qui lance plein de personnages, genre une dizaine de personnages d'un seul coup dans la mêlée, on sait même pas d'où ils sortent. Là, il y a une raison, tu vois, la présence d'Arès, et tout a une raison, tu vois, dans cet épisode. Puis c'est un épisode, voilà, où Bruce Banner fait un peu le deuil de Hulk. Et
Ouais.
ça m'a rappelé des vieux épisodes de Hulk, quoi. Moi, j'ai trouvé sympa. Comparé à d'habitude, je trouvais franchement que cet épisode était sympa. Bon, voilà, si ça pouvait être plus souvent comme ça, ce serait déjà mieux.
Moi, franchement, c'est vrai que j'ai vraiment préféré la première partie uniquement où il discutait avec A-Bomb et qui se disait, voilà, je suis plus Hulk, voilà, ça, c'est dur, machin, et en même temps, je suis content, enfin. Tout ce côté un petit peu introspection, avant que ça vire à la baston. Parce que l'arrivée d'Osborn dans le titre, c'est vraiment pour lier avec le Dark Reign, quoi.
Ouais. Enfin ça, est-ce que Jeff Loeb, on lui a pas demandé, bon écoute, tu vas nous faire un petit tie-in avec Dark
Oui,
Reign, ça nous fera plaisir.
bien sûr.
Donc bon.
Mais
Enfin
bon,
voilà.
le fait qu'il y ait la baston, enfin, puis qu'elle prenne autant de pages, je sais pas, ça casse un peu le rythme. J'étais content, en fait, du début de l'épisode, un peu moins de la fin. Même si l'épisode reste sympathique, quand même, faut être honnête. C'est pas souvent que je dis ça sur Hulk, alors, voilà.
Oui, voilà, si ça pouvait aller uniquement dans cette direction, ce serait pas mal. Et bon, malheureusement, je sais pas si ça sera toujours le cas.
On verra, j'imagine qu'on aura bientôt le retour de Hulk.
Ah, de toute façon,
On va pas rester
ouais.
sur Bruce Banner. Puis avec la deuxième série qui débarquera bientôt dans des numéros spéciaux, de toute façon, on aura l'occasion de reparler de Hulk dans les prochains mois.
Oh oui, il y en aura un max
Ouais.
d'ailleurs.
On passe au deuxième épisode, c'est le Mighty Avengers numéro 27, scénario de Dan Slott et Christos Engage qui rejoint son pote Dan Slott sur ce titre. Dessin de Coy Pham, ancrage d'Alan Martinez. Donc bah, tout comme Christos Engage est associé à Dan Slott sur Initiative, là il le rejoint sur Mighty Avengers et ils écrivent en tandem.
D'accord, oui.
Alors bah déjà c'est Coy Pham au dessin. C'est un peu moins bien quand même que ces derniers mois.
Ah, il n'était pas déjà dessus à un moment
Ah non,
donné.
le mois dernier c'était pas lui. Je ne sais plus d'ailleurs qui c'était, mais je sais que c'était pas lui. Et bon, c'est voilà. Bon, un épisode qu'on lit avec les Inhumains. Cette fois-ci, on parle d'un ancien ennemi des Inhumains qui a été exilé et dont le nom est complètement oublié de l'histoire. D'ailleurs, l'arc s'appelle The Unspoken.
Oui, oui, oui.
Celui dont on ne parle pas.
Comme dans le film Le Village, pour ceux qui l'ont vu.
Oh, quel bon film.
Oh,
Ah non, j'ai...
t'as pas aimé?
Non. Non,
D'accord.
non. Bon, c'est pas grave, hein.
Je
Donc voilà, bon, il y a des petites choses sympas. Pour ceux qui ont vu la série Andromeda, Joe Casta est clairement devenu Andromeda, puisque à la fin de l'épisode dernier, on se demandait ce qui allait lui arriver. Et, on avait l'invitation de Hank Pym à dire le mois prochain pour savoir ce qui se passait. Et donc ils ont recréé une espèce de maison des Avengers
Ah, ça c'est marrant, ça, oui.
dans la poche Pym, justement, une maison gigantesque avec beaucoup plus de portes pour accéder un peu partout à l'univers. Et en
Bah, en fait.
fait, Joe Casta peut apparaître un peu n'importe
Oui, puis au fait, la maison est infinie, en
où.
réalité.
D'ailleurs, il y a une super scène avec Jarvis qui commence à déprimer totalement et Joe Casta qui lui dit non, t'inquiète pas, elle se nettoie toute seule. Je trouvais ça super drôle. Le pauvre Jarvis qui tout de suite voit oh, va y avoir tellement de ménage. Bon, c'est des petits trucs, hein, c'est des petites blagues à la Dan Slott, quoi.
Bah non, mais c'est surtout une ambiance à la Avengers d'antan, quoi. C'est vraiment les Avengers tels qu'ils devraient être.
Il y a une phrase, alors je ne sais pas s'ils l'ont pareil, s'ils l'ont traduite en français. Quand on a ce fameux Unspoken, alors je sais pas, on ne connaît pas son nom, donc ce fameux ancien roi des Inhumains, celui avant Flèche Noire, qui détruit complètement l'équipe chinoise qui lui est envoyée dessus.
Ouais.
Je sais plus si c'est US Agent ou Quicksilver qui dit ça, mais il dit Alpha Flighted Them, qui est en fait une référence à New Avengers 16 où on avait cette espèce de personnage qui était la somme de tous les pouvoirs des mutants, qui avait détruit Alpha Flight en un coup.
Oui, The Collective.
Voilà, c'était ça.
Ouais, The Collective, effectivement.
Et cette petite référence m'a fait rire, quoi. Je veux dire, maintenant, voilà, quand on parle qu'on a fait un coup à l'Alpha Flight à quelqu'un, c'est qu'on les a tués en un coup, quoi.
Ah ouais, d'accord. Ok,
Alors, je sais
ok.
pas si
Non,
ça a été traduit, mais j'ai...
j'avais pas vu la en fait, j'avais pas compris la blague. Alors, je sais pas justement si du coup ils l'ont pris en français. C'est à quel moment?
Bah, vers la fin de l'épisode,
Ah si, si,
quand ils
si,
sont
il
là.
leur a fait le coup d'Alpha Flight. Ouais, exactement. Ah oui,
Voilà,
non, ouais,
c'est...
j'étais fatigué, j'ai pas calculé, mais oui, effectivement. Oui, c'est ça, oui. Ah oui, puis je m'étais même dit, alors est-ce qu'ils sont tous morts en fait, ces gens-là, ou
Bah, il y avait quand même Radioactive Man qui avait dans les Thunderbolts, donc s'il est mort, bah, c'est se débarrasser d'un personnage assez rapidement, quoi.
Ouais, non, ouais, c'est ouais, effectivement.
Bon, bah, c'est le début d'un nouvel arc, donc bah, il n'y a pas grand-chose à en dire. On va voir comment ils vont s'occuper de la menace. En tout cas, Quicksilver est du genre à dire, là, il faut prévenir tout le monde, même les Dark Avengers, quoi. Faut vraiment ramener tout le monde.
Non mais idée marrante quoi, idée marrante, nous sortir un inhumain comme ça, non non c'est original parce que c'est en plus c'est extérieur au Dark Reign, on part sur quelque chose de complètement différent, pour une fois que c'est pas encore Norman Osborn qui débarque, voilà donc non non bah bon petit début d'arc et voilà moi ça m'intéresse quoi, c'est une bonne petite lecture.
Très très bon. Ok, on passe aux deux derniers épisodes du MAC, ce sont les Avengers d'Initiative numéro 25 et 26. On va peut-être les traiter séparément parce que c'est quand même deux histoires assez différentes. Donc le 25 scénario de Christos Engage, dessin de Humberto Ramos.
Ah, Ramos.
Alors déjà, première chose, dessin de Humberto Ramos, je n'y crois pas une seconde.
Ah bon?
Ah ben, quand tu regardes
Pourtant,
les planches,
moi,
elles
je croyais
sont
que...
totalement... Il y a plein de scènes où on voit que... je veux dire, il suffit de regarder les pointes des cheveux, elles sont pas pareilles à certains, sur certaines cases que sur d'autres. Je pense qu'il a eu beaucoup d'aide, d'autres dessinateurs, d'autres encreurs, etc. Parce que normalement, il est censé avoir dessiné et ancré l'épisode lui-même. Et il y a des fois, c'est pas du tout centré. Ça se
Ouais,
voit.
mais il y a un espèce de sous-Ramos qui avait bossé, il me semble, sur Spider-Man notamment. J'oubliais complètement son nom.
Je sais pas de qui tu parles en fait.
Ouais, non, je sais plus non plus. Faudrait que je retrouve ça. Et il a peut-être été aidé effectivement par cette personne.
Moi ça m'a gêné parce que bon, déjà à savoir que c'est le dernier épisode de Ramos sur la série. Alors, ensuite c'est Rafa Sandoval qui prend. Mais voilà, enfin ça me gêne quand on annonce que c'est un dessinateur et qu'en fait on se rend compte que bah, y a d'autres personnes qui ont travaillé dessus mais qu'on les nomme pas. Parce que là, si c'est lui qui a tout fait, enfin c'est quand même bizarre ce changement de style d'une case à l'autre.
Bon, ça vient peut-être de l'ancrage aussi, alors peut-être.
Ouais, mais normalement c'est lui qui s'est ancré lui-même.
Bon.
Donc c'est pour ça que ça me paraît incohérent. Bon après, c'est qu'un petit reproche, ça vit pas non plus complètement la lecture, hein. Mais voilà. Bon, alors, au niveau du pitch du 25, c'est la fin de l'arc initiative Disassembled.
Ouais, il se passe vraiment plein de choses.
Ah oui, il se passe mais énormément de choses. C'est d'ailleurs deux très très bons épisodes. Hein.
Oh, ouais, très très bien, ouais. Très très bien. Par contre, on commence. Il y a les New Warriors qui ramènent MVP, donc
Ah, le corps d'MVP
le
à
corps
son
d'MVP à
père.
son père, ouais.
Ce qui est bien, c'est que d'ailleurs, je trouve que les New Warriors ont trouvé un refuge après le fait que leur série n'ait pas marché.
Ouais, voilà.
Ils sont dans l'initiative maintenant.
Ils sont en initiative puisque l'initiative, c'est pas vraiment une équipe, au fait. On peut pas vraiment désigner qu'est-ce que c'est l'initiative. Donc, autant mettre les New Warriors effectivement dedans.
Parce que la série qu'on a. Enfin, on avait eu quelques épisodes, je crois, de New Warriors. Je sais pas s'ils étaient sortis en français. Remarque, non, je suis pas sûr.
Je pense pas, non.
Ah, je sais plus s'ils étaient sortis en français ou pas. Si, je crois, dans un Monster. Enfin bref. Pendant Secret Invasion, c'était le 14 et le 15 de mémoire.
Ah, peut-être.
La série s'est arrêtée au numéro 20, donc elle n'a pas été très loin. Et je pense qu'ils sont rapatriés dans l'initiative parce que la série ne marche pas, mais que bon, les personnages ont quand même des fans, au
Ouais,
moins.
même si l'équipe a un petit peu changé,
Ah,
et
l'équipe a
d'ailleurs
changé,
ils
ouais.
ont pris avec eux, donc je pense, le clone de MVP, donc une espèce de...
Scarlet Spider, en fait.
Bah non, c'est pas Scarlet Spider, puisque Scarlet Spider c'était le clone. Là, c'est plutôt Iron Spider.
Ouais, enfin, il a un costume moitié de Spider-Man, là. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé Scarlet Spider, mais...
Ouais.
Ouais, enfin, c'est un peu avec le design de costume Tony Stark.
Ouais, voilà, c'est ça. Le Iron Spider-Man,
Voilà,
je sais
c'est
pas
ça.
comment.
Iron Spider-Man, c'est ça.
Ouais.
Bon, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a Norman qui nous fait revenir Pinens.
Oui, aussi.
Et on en parlera après, d'ailleurs, de ça, malgré tout, même si ça, c'est plutôt en 25. On a Tigra qui finalement va rejoindre les New Warriors, ainsi que Gauntlet.
Oui, voilà exactement. Elle est, bah, on voit aussi Hood quoi, qui avec lequel elle a des comptes à régler et puis du coup c'est ce qui provoque sa décision en fait d'aller rejoindre les New Warriors.
Hood qui devient finalement le chef du camp Hammer, parce que c'est comme ça que ça s'appelle maintenant.
Ouais.
Du
Alors
camp
tu
Hammer.
vois là, c'est ça qui m'a un petit peu gêné. Je t'en parlais justement tout à l'heure avec New Avengers, c'est-à-dire que Hood se fait prendre une raclée phénoménale et là il est nommé chef du camp du Hammer, ouais. Donc voilà, tu vois, ça me semblait un pas très raccord en fait. Je me demandais s'il en venait après et on le retrouve effectivement dans Initiative. Donc bon.
Franchement, ce numéro 25, alors c'est pas un numéro anniversaire double, mais alors au niveau des choses qui se passent, c'est vraiment un must-read quand même.
Ah oui, c'est super dense quoi. Il
Il
se
faut
passe
vraiment
tellement de
le lire.
choses.
Mais d'ailleurs, autant le 25 que le 26, j'ai passé une plombe à les lire parce qu'il y a tellement de dialogues, mais c'est pas lourd quoi. C'est pas du dialogue forcé où on s'emmerde. Non, non, vraiment, ça bouge dans tous les sens.
Ouais, il y a pratiquement 6 intrigues différentes de développer, quoi, quasiment. Donc on a celle avec Tigra, on a la décision aussi du Gantelet. Il y a tellement de choses de toute façon dans cet
D'ailleurs,
épisode.
je trouve que Christos Engage va vachement plus loin avec Norman Osborn que dans les autres séries, à part peut-être Andy Diggle dans Thunderbolts, mais là, il veut quand même carrément enlever le bébé de Tigra pour faire des expériences dessus.
Oui, Norman Osborn qui est passé expert d'ailleurs dans l'enlèvement de bébés depuis bien longtemps. Après celui de Luke Cage, de Spider-Man, de... Enfin voilà, donc voilà, c'est toujours... faut se méfier de Norman, il adore... Il doit mater du SOP, Norman. Parce qu'il est expert en enlèvement de bébés. Enfin, bref.
Non, voilà. On va parler un petit peu du 26 aussi. Donc le 26, c'est toujours Christos Engage au scénario, Rafa Sandoval au dessin et Roger Bonnett à l'ancrage. On a les nouvelles équipes de l'initiative dans ce numéro 26. Il nous présente les nouvelles équipes et chose très maligne, je trouve, de la part de Christos Engage, puisque les New Warriors sont devenus... Oui, d'ailleurs, il y a le nouveau nom de l'équipe des New Warriors, puisqu'ils décident depuis s'appeler les New Warriors, mais Avengers Resistance.
Ah, ça, j'ai même pas vu en français, dis donc. J'ai oublié ça, moi, dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Ah, peut-être, oui.
Et oh, je trouve le nom tout à fait
Ah
pourri.
oui, Vengeur, oui, parce qu'en français, ils disent Vengeur résistant rassemblement, donc, oui,
Ouais,
d'accord.
Vengeur Résistant. Ouais. Bon, de toute façon, Avengers Résistance ou Vengeur Résistant, ça revient exactement au même. Et je trouve
Exactement.
le nom tout à fait pourri, hein, honnêtement.
Par contre, j'allais dire, appeler Camp Hammer à la place de Camp Amond, moi, ça m'a fait rire, quoi.
Ça, c'est très bon. Ouais. Ça, c'est très bon. Donc, Norman fait son petit show devant les médias. En disant à tout le monde, voyez, on a mis le camp loin de tout, ça blessera plus jamais personne, il n'y aura pas un nouveau Stamford, etc. Et là où c'est très très malin, c'est que vu que les New Warriors sont contre Norman, qu'est-ce qu'il a été cherché comme ennemi pour faire, enfin en tout cas donc comme nouvelle équipe d'initiative pour les États qui n'en avaient plus, des anciens ennemis des New Warriors. Pour ceux qui auraient lu la toute première série, on retrouve Psyonix, on retrouve aussi Force of Nature, qui étaient des équipes d'ennemis des New Warriors. Et je trouve ça super malin de la part de Christos Engage.
Oui, surtout que c'était des personnages qu'on voyait plus, donc là, ça le permet de les réutiliser. Et puis surtout, donc Norman Osborn emploie grosso modo des méchants, quoi, comme les Thunderbolts, pour reformer l'initiative, quoi. C'est-à-dire qu'il refait ce qu'il avait fait avec les Thunderbolts,
Exactement.
une espèce de version evil des équipes de l'initiative.
Mais ça prouve bien que finalement Avengers Initiative est devenu quasiment un nouveau titre New Warriors, quoi. Il y a quand même ce ciment-là qui est là, vraiment.
Alors,
Ça
moi
tourne autour, quoi.
le seul regret que j'ai, c'est un... Alors, je sais pas si ça va être le cas, mais j'ai peur qu'à la fin du Dark Reign, puisqu'on sait que le Dark Reign ne sera pas infini, j'ai peur que ces équipes disparaissent, quoi, totalement.
Ah bah c'est. Il y a de fortes chances, hein, quand même.
Ouais, donc j'espère qu'ils auront le temps de développer ça dans l'initiative d'ici là, parce que là, c'est vraiment très très bon.
On a aussi Tigra qui pète les plombs totalement à la fin de cet épisode 26. Et puis alors, bien quoi. Bien, bien, bien.
Ouais, bien comme il faut, ouais.
On vous laisse découvrir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, donc non, franchement, deux super bons épisodes qui sont franchement à lire. Pour moi, l'initiative n'a pas toujours été au top sur certains épisodes. On avait un peu tendance à s'emmerder, pour être honnête. Mais là, franchement, c'est bon, quoi. On retrouve le thème avec les New Warriors d'un côté, l'initiative de l'autre.
Tu voulais pas dire un truc sur Pinance tout à l'heure, en fait?
Oui, bah oui, si, bah pardon, c'est vrai que j'allais presque oublier. On a Norman Osborn donc qui vient rechercher Pinance. Et ouais, voilà, bah, comme tu l'as dit, en fait, hein, on a l'impression que quand Hammer devient nouveau Thunderbolts, quoi.
Ouais,
C'est
voilà, c'est
génial,
ça.
voilà, comme tu l'as dit, en fait, c'est pour ça que je suis pas revenu dessus, finalement.
D'accord.
Mais on a Taskmaster qui devient le nouvel entraîneur, donc qui prend la place de Gauntlet. On a Hood qui est chef de l'initiative. Bon, il y a toujours le docteur allemand, j'ai oublié son nom, qui fait partie de l'équipe. Voilà, enfin c'est.
Et il y a Trauma aussi qui est toujours là. Et qui sert un petit peu de psy, quoi, en fait. C'est ça qui est marrant en plus.
Et qui finalement, on voit que si ça pète, ça risque de venir par lui, en tout cas, que les choses vont changer. Il y a quand même un retour en arrière pour Pinance, quand c'est peut-être un petit peu dommage, je sais pas, faudra
Ouais, mais enfin
voir.
en même temps, il t'est laissé de côté, donc c'est pas plus mal de l'utiliser à nouveau. Et c'est vrai qu'il y a un petit retour en arrière puisqu'il y avait une mini-série où il faisait vraiment la paix avec lui-même et voilà quoi.
Ben là, il a totalement tout oublié et il sait plus vraiment qui il est. Bon voilà quoi, on recommence un peu à zéro, mais Norman le manipule.
Bah il a peut-être été drogué aussi quoi,
Ah
il a
bah oui,
peut-être.
il a été complètement drogué, ça c'est sûr. De toute façon, ils le disent clairement que c'est les drogues et puis Norman. Mais je sais pas, c'est un petit retour en arrière, je trouve, pour le personnage.
Ouais.
Même si on se
Enfin.
doute que ça va bouger avec Trauma, quoi.
Enfin, dans tous les cas, c'est vraiment très bon cette série, vraiment très bon. Alors, ça avait un petit peu baissé un moment, mais maintenant, franchement, j'ai hâte de lire la suite, quoi.
Et puis on a aussi le lien, j'allais oublier, on a aussi le lien avec ce qui s'est passé dans Guardians of the Galaxy. Quand pour l'attaque de la prison dans la zone négative.
Ouais.
Donc là, les choses se raccordent enfin.
Non, mais enfin, ce qui est impressionnant, c'est le travail fait sur la continuité.
Ah, Christos Engage a fait quelque chose de magnifique,
Ouais
franchement.
ouais ouais vraiment le mec je pense qu'il a dû lire un paquet de choses et référencer un paquet d'événements pour que ce soit vraiment cohérent. Il arrive à voilà vraiment à respecter la continuité. C'est impressionnant.
C'est très très bon. Bon, franchement, pour moi, les deux meilleurs épisodes du mag, hein, sans conteste.
Ouais. Puis non, mais enfin globalement là jusque-là en tout cas tous les mags étaient bons.
Mais de toute façon, ce mois-ci, on a le droit à un mois quand même, franchement, plutôt sympathique.
Ouais,
Il y a des choses un peu moins
ce qui
bonnes.
relève bien le niveau de la fin du mois dernier, qui n'était pas terrible, terrible.
Oui, c'est vrai. Mais bon, ah, ça arrive, hein. Il y a des mois avec, il y a des mois sans.
Voilà. Ben, on passe justement à un truc peut-être
Un peu moins
moins sérieux.
bien, un petit peu moins bien. On va attaquer l'univers mutant, mais finalement toujours avec un lien avec le Dark Reign, puisqu'on va passer au X-Men 559, début du crossover entre Dark Avengers et Uncanny X-Men. Donc le premier épisode, c'est le Dark Avengers Uncanny X-Men Utopia, qui est, comme je disais, la première partie du crossover. Scénario de Matt Fraction, dessin de Mark Silvestri, enfin si on veut, et ancrage, là aussi si on veut, de Joe Wills. Puisque quand on lit bien, on se rend compte qu'au niveau du dessin, on a des assistants. Je vais les citer hein, quand même pour voir à quel point c'est ridicule. Michael Broussard, Eric Basaldua, pardon, Tyler Kirkham et Sheldon Mitchell. Et à
Ouais.
l'ancrage, on a des assistants. Marco Galli, Eric Basaldua, Rick Basaldua, Jason Goddard, Jay Leisten, Sal Regla, John Sibal et enfin Ryan Wynn. C'est ridicule.
Au fait, voilà, c'était le travail des stagiaires cet été, enfin je sais pas quand, vite
C'est-à-dire,
fait.
on a Marc Silvestri qui se fait accompagner quand même de 4 dessinateurs et l'encreur Joe Wims qui se fait accompagner de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 encreurs différents. Ah, bon, bah, c'est pas la peine de dessiner si on peut pas faire tout tout seul, quoi. Je sais pas. Ça me fait rigoler. D'ailleurs, j'ai trouvé que, enfin, moi, pour moi, c'est pas du Silvestri en grande forme. Hein. Mais ça s'explique vu qu'il y a quand même 4 assistants.
Ouais, non, c'est vraiment pas du Sylvester en grande forme, mais je dirais même que les dessins sont pas super en fait, hein.
Pour moi, c'est quand même un des premiers reproches hein, du truc. Hein. C'est quand même bof, bof, bof. Au niveau du dessin. Après, au niveau de l'histoire, bah, beaucoup de choses et puis finalement pas grand-chose.
Beaucoup de bruit pour rien, je dirais, parce que quand tu vois la couve, tu sais, ça pète un peu, quoi. Utopia. Bon voilà, parce que c'est le titre de ce nouvel arc. Tu vois les Dark Avengers apparemment qui ont, bah, enfin sur la couve en tout cas, qui ont détruit les X-Men. Et puis voilà, donc t'as Wolverine, t'as Cyclope. Enfin, il a l'air de se passer un truc. Et au fait, on en est toujours aux anti-mutants qui manifestent à San Francisco. Et à partir de là, eh ben, y a certains X-Men qui sont pas contents, il y a des affrontements, et là-dessus, donc il y a Norman Osborn qui en profite pour dire que c'est inadmissible à la télévision, et qu'il faut faire quelque chose, il faut mater un petit peu les mutants, quoi, les calmer.
Ah bah il fait passer San Francisco sous loi martiale, enfin voilà
Oui,
quoi,
ben voilà.
c'est quand même il va très loin là.
Bah enfin il fait son Norman Osborn quoi, donc faut, quand je dis faut calmer les choses, chez Norman Osborn, c'est toujours un peu excessif, évidemment. Mais au fait, voilà. Et puis alors l'épisode en plus se termine. Et moi je me disais merde, il manque une page. Tu vois, il se termine vraiment sur une case. C'est même pas une pleine page. C'est assez bizarre. T'as pas eu cette impression, toi?
Non, 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 pas
Voilà. Et
vraiment.
puis je comprenais même pas d'ailleurs la fin exactement de l'épisode. Donc en fait, en gros, il y a.
Façon, on va en parler puisqu'on va parler du 513 après, donc de toute façon, enfin du Uncanny X-Men 513 qui est la suite et ça reprend de là, donc.
Non, bah, enfin, si tu veux reprendre des points particuliers de cet épisode-là, par exemple, du premier.
Bah, franchement, déjà, premier truc qui me. Enfin, ça me dérange, oui et non. En fait, déjà, c'est le retour d'un Trask, encore,
Ouais.
qui cette fois-ci va plus loin et interdit, enfin, veut que les mutants soient et un contrôle des naissances, en fait, pour faire
Ouais.
simple. Donc, avec une loi qui sera peut-être votée au Parlement et au Sénat, enfin, tout ça. Jusque-là, ça manifeste dans tous les sens. Bon, ok. Ce qui me gêne, c'est le retournement du public qui est super rapide. En fait, on revient à un statu quo des mutants classiques, c'est-à-dire haï par les gens. Et voilà, autant Matt Fraction nous a amené les mutants adorés par le public à San Francisco, mais comme ça, en un claquement de doigts, en un épisode, tout le monde les aimait bien quand ils ont emménagé. Et là, en un épisode, clac, ils redeviennent haïs par le public.
Ouais, c'est un petit peu le syndrome Spider-Man, c'est-à-dire que d'un seul coup, ils sont tous haïs, comme ça, quoi, en un claquement de doigts, comme tu dis. Et ouais, moi aussi, ce qui m'a gêné, c'est on a l'impression que c'est vraiment pour coller à Dark Reign, en fait. C'est vraiment pour qu'il y ait une confrontation avec les Dark Avengers, que d'un seul coup, bah voilà, les mutants, ça devient des gens pas beaux, voilà, que tout le monde déteste.
Non,
C'est
puis
un peu forcé,
je
quoi.
trouve que certains personnages ont des comportements bizarres, notamment Beast, qu'il aille manifester pour les droits des mutants, ça me paraît bizarre.
Ouais.
Je
Non,
vois
non,
pas
puis alors,
Beast faire ça, en
moi ce que
fait.
j'ai trouvé vraiment idiot dans cet épisode, de toute façon, c'est que comme tu dis, donc il y a le couvre-feu, instauré par Osborn, et je me suis dit, bah, de toute façon, tout ce qu'ils ont à faire, les mutants, c'est de laisser courir, tu vois, de ne pas y retourner sur la place publique, de ne pas manifester, quoi. Puisque ils savent très bien que si en plus ils viennent dans la rue, il y aura des affrontements et que ça va leur porter préjudice. Eh ben non, ils y vont même en plusieurs équipes comme ça et tout quoi.
Bon, faut
Donc je...
savoir qu'il n'y a pas que les X-Men à San Francisco, hein. Quasiment tous les mutants se sont regroupés là-bas, donc
Ouais, mais enfin en même temps, tu vois, en plus ils sont censés plus être nombreux du tout, 198 hein, exactement.
bon, moins
Et là,
maintenant parce qu'il y a eu des morts, mais
ouais, moi en plus, ouais, et là on a l'impression qu'il y en a trop plein. On a l'impression qu'il y
bah, y a beaucoup
a
de gens qui les supportaient, comme il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas mutants dans la manifestation. Mais le truc, c'est que l'esprit du public change super rapidement vis-à-vis des mutants. Et autant ils ont été acceptés, ce qui était un choc, parce que depuis des années, les mutants sont détestés. Autant ils ont été rapidement acceptés que là ils sont rapidement haïs et alors qu'on revienne à l'histoire d'avant, bon, je peux comprendre, même si je trouve que le fait qu'ils soient acceptés, même si ça me paraissait rapide, ça pouvait donner quelque chose de nouveau et d'assez intéressant. Là, qu'ils soient de nouveau détestés aussi facilement,
Ouais, parce qu'il se passe rien de vraiment terrible, tu vois, pour les discréditer.
voilà, c'est
Autant
que ça
dans...
fait forcer, quoi, c'est ça qui me gêne.
Voilà, c'est ça. Et autant dans X-Force, t'as des attentats propagés par des mutants. Donc ça, c'est une très bonne idée. Et effectivement, le public pourrait avoir peur à nouveau des mutants à cause de ça. Autant là, dans Uncanny X-Men, il n'y a rien qui fait que le public
Rien.
puisse d'un seul coup avoir peur des mutants.
Ouais, il y a un
En tout
petit
cas,
peu
c'est
de
pas dit.
destruction, quoi, mais c'est pas.
C'est mal amené, c'est précipité, on a l'impression que c'est forcé. Et en plus, c'est d'autant plus appuyé par le fait que c'est un numéro spécial. Donc ça fait vraiment voilà, le côté forcé est très appuyé, quoi.
On va passer au 513, enfin, Uncanny X-Men 513, l'épisode d'après, donc qui est la deuxième partie du crossover. Scénario toujours de Matt Fraction, dessin de Terry Dodson, ancrage de Rachel Dodson. Bon, voilà, enfin. C'est vrai que j'en ai pas parlé pour l'épisode d'avant, mais il y a le fait aussi que Emma fait le petit chien d'Osborn, mais vraiment son petit chien, et on se demande à quel point Norman peut avoir des dossiers sur elle pour qu'elle soit aussi gentille avec lui et aussi rangée, enfin qu'elle se range tout de suite à ce qu'il dit, quoi.
On avait eu le petit backup, tu te souviens, avec Emma, Namor et Osborn.
Ouais, mais bon, quand même,
Mais
quoi.
là, mais oui, là comme tu dis, je vois pas trop
Elle se rebelle
pourquoi.
pas, elle dit rien, elle est d'accord, quoi, presque. Puis elle accepte de prendre ce rôle dans les Dark X-Men qu'on a découvert un petit peu.
Bah là, quoi.
Ouais.
Oui, alors donc effectivement, ouais, comme tu dis, il y a les Dark X-Men qui se forment. Et c'est là où je vois que, enfin, j'ai envie de dire que les X-Men subissent totalement le reste de l'univers Marvel. Ils sont tellement à la traîne. Que bah voilà, pour rentrer dans le lot, il leur fallait une équipe de Dark X-Men. Et en plus, bon, bah l'équipe, enfin voilà, quoi, comme par hasard, il y a Deacon. Alors bon, niveau originalité, bonjour, quoi, puisque le mec est quand même déjà dans les Dark Avengers, donc il fallait qu'il soit dans les Dark X-Men, puisque forcément c'est un Wolverine bis.
Bah oui, voilà.
Y a
Cloak
Cloak and Dagger, alors je savais même pas, tu vois, que Cloak and Dagger, c'était des mutants. Moi, je
Si,
pensais
si,
que
depuis le
c'était,
départ,
ils
c'est
étaient
des
nés d'une
mutants.
expérience, au fait.
Mais bon, moi, je me rappelle, enfin, de ce que je me rappelle, ils ont toujours été mutants, enfin, considérés comme des mutants.
Ok,
Donc.
d'accord. Non, non, parce que moi, je savais pas du tout. Moi, j'étais persuadé que c'était une expérience qui avait mal tourné sur les téléportations ou je sais plus quoi. Et voilà. D'accord, ok.
Bah, je sais plus en même temps, j'ai plus vraiment l'origine des personnages en tête, donc bon, ça m'a fait plaisir de les revoir parce que ça faisait longtemps que je les avais pas vus, c'est tout, mais voilà, c'est
Ce
pas.
qui est marrant, c'est de revoir Mimic, qui est quand même un super vieux ennemi des X-Men.
Puis bah, qui avait été tellement mis en avant par les X-Files que qu'on avait presque oublié qu'on avait un mimique chez nous, quoi.
Exactement, ouais, c'est vrai. Et il y a justement, alors je crois que c'est lui, l'arme Oméga, qui est au fait The Collective. Ah, je t'ai peut-être perdu là. Parce qu'au fait, il y a eu
J'ai
une
raté ça.
mini-série. En fait, il y avait une mini-série Omega Flight, je crois que c'était, qui a été publiée en français au début de Marvel Heroes. Et ça se passait peu de temps après les New Avengers avec le collectif. Et je crois que c'est le collectif, donc le mec qui avait tous les esprits,
Ouais.
alors, je sais plus, des mutants morts, ou je sais plus ce que c'était,
Bah,
c'était
tous
assez...
ceux, tous les pouvoirs, tous ceux dont les pouvoirs avaient disparu.
Voilà, et je crois qu'on lui donnait le costume ensuite du défunt, justement, alors je sais plus comment il s'appelle, c'était Guardian, non, qui était habillé
Le
comme
chef
ça?
d'Alpha Flight, ouais.
Ouais, et ben voilà,
Le
et je crois qu'on
gardien.
lui donnait ce costume-là, et il formait une équipe à un moment donné qui s'appelait Omega Flight, bon, qui n'a pas duré, et je crois que c'est lui, je crois que c'est lui, Michael Pointer, ouais.
J'avais pas lu ça.
Voilà, bon, alors à vérifier, hein, mais je crois que c'est ça. Donc bon bah voilà, une équipe un petit peu fourre-tout, mais surtout ce qui me gêne, c'est le côté voilà, fallait qu'il fasse une équipe Dark X-Men.
Bah ouais, encore ce thème Dark Reign comme on a vu avec les Young Avengers le mois dernier, puis bah avec les Dark Avengers bien sûr, enfin
Et
c'est
puis
le
avec
côté,
l'initiative
et
en
puis
ce
oui
moment,
voilà.
enfin tu vois, une version dark de tout.
Ouais,
Et
c'est vraiment le thème récurrent qui devient presque, bah on s'y attend plus en fait, c'est plus nouveau.
c'est plus
C'était,
nouveau.
on sentait déjà plus ce côté de nouveauté et surprise après Dark Avengers numéro 1 pour les Young Avengers, mais alors là c'est encore pire quoi.
Ouais, puis les X-Men ont ce côté, donc bah, tu vois, toujours à subir le reste de l'univers.
On a oublié aussi Mystique dans l'équipe des Dark X-Men qui prend le rôle de Xavier.
Ah oui, c'est vrai, oui. Et puis alors là, j'ai pas compris du tout. En fait, j'ai pas compris la fin. J'avais pas compris la fin du premier
Mais moi
épisode.
non plus. Comment Xavier s'est retrouvé en prison?
Voilà, et
Comment?
c'est pour ça que je te disais, quand ça s'arrêtait net là-dessus, je comprenais rien du tout. Et au fait, le deuxième épisode m'a un peu plus éclairé,
Moi, j'ai
mais
toujours
alors.
pas compris comment il était en prison.
Non, moi non plus. Et qu'est-ce que vient faire Mystique là-dedans? Parce que je pensais que Mystique était morte, mais bel et bien morte.
Mais oui, mais non.
Donc ça m'a étonné. Et
Rogue croyait qu'elle était morte.
bah non, mais là, ils ont pas
Mais...
l'air surpris de la voir, quoi. C'est ça qui m'a étonné aussi, c'est que encore, si tout le monde la croyait morte, ils auraient pu avoir l'air surpris, mais là, non.
On l'avait revue dans l'arc Get Mystique par Jason Aaron sur Wolverine juste avant Old Man Logan.
Oui, mais justement, c'était là où je pensais qu'elle était morte à la fin, quoi, en
Bah
fait.
déjà les gens, enfin, on pensait tous qu'elle était morte à la fin de Messiah Complex, puisque Rogue pensait l'avoir tuée et elle l'avait dans sa tête. Puis en fait non, et donc bon, ça m'étonne. Moi ça m'a un peu surpris de la revoir, tu vois. Je me suis dit bon, elle devait traîner quelque part. Bon bah là voilà, c'est mystique quoi.
Ouais.
Oh, il y a des trucs sympas, genre le retour d'Adam X que j'avais pas revu depuis tellement longtemps.
Alors c'est lequel celui-là
C'est un gars qui a une casquette à l'envers avec une petite barbiche qui faisait partie d'un groupe dans un bar qui décide d'aller tout casser dehors.
Ah oui, d'accord, oui, ok, d'accord, je vois.
Voilà. Qui fut un temps avait été pensé peut-être comme le troisième frère Summers, il y avait des rumeurs, et qui en fait pas du tout.
Oui,
Qui était
un petit
apparu
peu.
dans les pages de X-Force à l'époque. Mais bon.
D'accord, ok. Gambit aussi, je crois, avait été pressenti
Ah
comme le
bah oui,
troisième frère.
souvent, par beaucoup de gens, c'était
Ouais.
la volonté du public, mais finalement ça n'a pas été fait.
Bon.
Et puis il y a un truc par contre que j'ai trouvé ça moyen, c'est Trask qui est une espèce de sentinelle humaine qui transforme les autres. Et ça m'a vraiment fait penser à Zéro Tolérance.
Oui, à Bastion.
Ouais. Et pour moi, c'était un crossover tellement pourri que ça me gêne un peu. J'ai pas du tout aimé Zero Tolerance, donc bon
Ouais,
voilà.
enfin le crossover était pas terrible, mais l'idée était pas trop mal. Enfin moi je m'attendais pas à ce que Bastion soit, tu vois, la fusion entre, alors c'était
Le Master
entre,
Mold
voilà, ouais, et Nemrod.
Nimrod, ouais, voilà.
Bon, de toute façon, en même temps Trask, je crois qu'il est revenu donc dans les pages d'X-Force, au fait, avec tout le reste, avec Bastion et
Ah mais c'est
compagnie.
pas le même Trask, hein, c'est Simon Trask là. C'est pas
Ah c'est un
Bolivar.
nou, ah c'est pour ça que tu disais un nouveau Trask. Ah
Ouais.
d'accord, ok,
Enfin,
ouais.
c'est un nouveau, il est peut-être déjà apparu, je sais plus, hein, mais c'est pas Bolivar Trask, le créateur des
Ah oui, t'as
Sentinelles.
raison, ouais. Bah
Je sais
c'est
pas
son
si
fils, non?
c'est peut-être un fils ou un
Ou un frère.
neveu ou un truc comme ça, je sais pas. Enfin bon, il fait partie de la famille Trask. Le fait qu'il soit une sentinelle, bon voilà. Enfin bref, bon, on aura la suite le mois prochain. Je crois que c'est en 7 parties, donc 3 parties dans Uncanny, 3 parties dans Avengers plus le spécial, et il y a un numéro spécial final dont je tairai le nom pour le moment. On aura aussi des parties dans X-Men Legacy, je crois qu'on aura le mois prochain, qui sont un petit peu ce qui se passe pendant la bataille, voilà. Qui sont en fait plus tie-in, qui font pas vraiment partie du crossover. Peut-être qu'on aura des explications sur comment Xavier s'est retrouvé en tôle. Parce que moi, ça me prend la tête, personnellement. Je comprends pas comment il a pu se retrouver en tôle.
Ouais, bah non, mais moi non plus. Non, mais il y avait des choses que, tu vois, j'ai pas compris. Hein. Des transitions qui étaient pas faites, ou je croyais qu'il manquait une page. Enfin, tu vois, j'ai vraiment eu un doute, du coup.
On passe maintenant donc à l'avant-dernier épisode du mag, c'est le New Mutants volume 3 numéro 2, deuxième partie de l'arc Return of the Legion. Zeb Wells au scénario, Diogenes Nivis au dessin, Cam Smith et Ed Tadeo à l'ancrage. Bon, bah ça suit son cours. Moi je déteste pas. Il y a vraiment le petit côté New Mutants à l'ancienne de la première série pour les nostalgiques. On a des petits trucs du genre Sam qui a honte de porter Berto pour voler comme à l'époque. Voilà, le fait qu'il le porte dans ses bras. C'est des petits trucs comme ça. Pour le moment, c'est un peu difficile de dire c'est bien, c'est pas bien. Je sais pas. J'attends la fin de l'arc pour voir. Mais ça me déplaît pas.
Ben alors moi, voilà quoi, je vais avoir un avis un peu plus différent du tien parce que, enfin même beaucoup. Quoi. Moi, ça me, enfin voilà, ça m'accroche pas du tout et je pense qu'il faut vraiment avoir lu les anciens New Mutants pour vraiment. Tu vois, toi, tu voyais des références aux anciens épisodes. Bon, moi, forcément, je les vois pas. Et en plus, voilà, je comprends pas tout quoi. Vraiment, il y a des moments où je comprends pas où ça va, qu'est-ce qui se passe exactement. Je connais pas tous les personnages non plus. Enfin voilà, donc c'est vraiment, je pense, très compliqué pour qui n'a pas lu du tout les New Mutants à l'époque.
Ouais, c'est sûr. C'est vrai que ça me paraît, c'est vrai, un petit peu plus. Pour bien accrocher, ouais, c'est vrai qu'il faut au moins connaître un minimum les personnages.
Autant j'ai lu, tu vois, du Génération X et j'avais pas eu trop de mal à accrocher et à comprendre, autant là j'ai vraiment du mal, même si on retrouve quand même quelques personnes de Génération X. Je pense qu'il doit y avoir Jubilé, non? Elle est pas là?
Non, 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 non. Non, non,
D'accord.
il y a tout le cast des anciens New Mutants, donc
Ah bah oui, c'est vrai, donc de toute façon elle était pas dedans. Mais
On
non,
a
je connais
Berto,
Rocket.
on a Sam, on a. Ouais, enfin
Voilà,
donc,
ouais.
Sunspot. Ah, je vais te faire les noms anglais parce que les noms français, je ne me rappelle plus trop. Je crois que c'est Solar en français qui s'appelait. On a donc Rocket en français, Cannonball en anglais. On a Danny Moonstar.
Oui, bien sûr qu'on connaît avec sa plume.
Voilà.
Ouais.
Il y a Karma.
Alors c'est qui par exemple?
Karma, c'est celle qui est une espèce de télépathe qui peut faire ressortir les cauchemars des gens.
Elle est blonde?
Non, c'est une asiatique.
D'accord. Ouais, non, et puisque tu vois, entre Danny Moonstar qui est indienne mais qui a quand même une tête d'asiatique sur certains dessins, et elle, tu vois, je les confonds toujours.
Et puis Baya Magic. Et je crois qu'il y a Magma aussi.
Il y a Magic, ouais, la sœur de Colossus. Et Magma, donc, qui a quelle tête?
Bah la dernière, la quatrième. Je sais. Le truc, c'est que c'est vrai que là, on n'a pas vu. On a vu surtout Sam et Berto. Et puis, je crois que c'est Danny Moonstar qui est enfermé dans la tête de Légion.
Ouais.
Qui essaye d'aider cette gamine qui s'était venue aider au départ. Et Légion qui finalement contrôle presque toute la ville.
Et Légion, qui est le fils de Xavier, hein, c'est
Oui, qui est
ça,
le
hein.
fils de Xavier. Oui.
C'est vrai qu'on a tendance vraiment à oublier que Xavier a eu un fils.
Et qui justement en fait veut empêcher la fille de sortir parce que il veut pas être. Enfin, c'est surtout ses autres personnalités. Il a sa personnalité de Légion lui-même qui veut être guéri de tout ce trouble. De schizophrénie qu'il a avec ses multiples personnalités, et toutes les autres personnalités qui ne veulent pas disparaître en étant guéries, qui se rebellent. C'est ça en fait le thème. Bon, on verra de toute façon comment ça va continuer, l'arc étant
Enfin,
déjà fini.
juste un dernier truc, moi je trouve ça super glauque, cette série. Super glauque. T'as Légion, genre, qui tue les parents, là, c'est même super violent, je trouve, par moment.
Bah, c'est pas vraiment lui, enfin, c'est une de ses personnalités, quoi,
Ouais, non, mais enfin,
mais ouais, non, mais je comprends, ouais.
si tu vois, je trouve ça bizarre. Je m'attendais pas à un truc glauque, je m'attendais justement à un truc plein d'espoir, sur la jeunesse, etc. Et au fait, là, c'est vraiment le désespoir complet, quoi, quand
Mais
tu lis ça,
je
c'est...
pense que c'est ça aussi qui est voulu, c'est que maintenant ce sont plus des jeunes, ils sont tous adultes et voilà quoi. Et il faut se confronter aussi aux réalités du monde. C'était
Ouais.
déjà un peu le cas, le thème de la première série, mais là c'est encore plus flagrant quoi.
Ouais.
Bon, je sais pas, on verra ce que ça va donner. On passe au dernier épisode, parce que en fait moi je ne savais pas qu'il y avait un petit truc, un petit backup supplémentaire, tu me l'as dit juste avant le podcast, donc je ne l'ai pas lu, c'est un épisode de Manifeste Destiny, donc là je vais te laisser faire le tour et puis en parler vite fait, parce que moi je ne l'ai pas lu ça.
Ouais, voilà. Donc il y avait deux petits épisodes tirés de deux Manifestes Destiny. Donc il y avait d'abord un épisode tiré du quatrième Manifeste Destiny de février 2009. Alors qu'est-ce qu'il y avait au dessin? Scénario donc de James Asmus, que je ne connais absolument pas. Les dessins sont de Takeshi Miyazawa. Donc voilà, dans un style un peu manga, c'est pas étonnant. L'ancrage de Christina Strain. Que dire? Bah pas grand-chose en fait, hein. C'est juste vraiment une toute petite histoire où t'as Diablo dans la salle des dangers, enfin Diablo Nightcrawler quoi, dans la salle des dangers qui se défoule comme il peut et qui au fait à la fin on voit que bah s'il a autant de haine à expulser, c'est parce qu'il regrette le départ de, enfin surtout la disparition de Kitty Pryde quoi.
D'accord.
En gros, c'est ça, hein, y a vraiment rien de plus. Le second épisode est plus intéressant. Il est tiré du Manifeste Destiny numéro 2 de décembre 2008. Au scénario, donc c'est quand même Chris Yost. Les dessins sont de Paco Diaz et l'ancrage de Matt Mila. Mia, d'ailleurs. Alors là, c'est une histoire avec Emma Frost, qui doute un petit peu de sa position de chef. Donc c'est une espèce d'introspection, voilà, sur quelques pages où elle se sent pas à sa place dans l'équipe des X-Men, elle a l'impression que tout le monde la rejette, etc. Et puis à un moment, donc ils sont tous à table dans un restaurant, et elle se lève brusquement et elle leur dit bon bah écoutez, si vous me détestez, dites-le moi, etc. Alors ils comprennent pas trop ce qui lui prend. Et donc sur la fin, t'as juste Wolverine qui vient lui parler, qui lui fait tout un pitch en lui disant on n'a rien à te pardonner, déjà pardonne-toi toi-même, fais enfin voilà, fais le vide avec ton passé, et puis tout ira bien.
Wolverine le sage, quoi.
Voilà, en gros voilà, bon c'est pas super passionnant. Bon, c'est un peu plus d'intérêt que le précédent, mais en gros c'est vraiment deux petits épisodes bouche-trou, voilà quoi, qu'ils ont mis là parce que.
Voilà. Bon, de toute façon, on en retrouvera deux autres petits épisodes dans la
Qui
série
sont
chez
plus drôles,
X-Men.
hein, qui sont plus passionnants. Je te le dis tout de suite, là, franchement, ceux-là, voilà quoi. Je les avais même oubliés, au fait.
D'accord. Ok, on passe maintenant au Wolverine numéro 195. Nouvelle série qui débarque dans les pages de Wolverine, c'est Wolverine Weapon X, ça s'appelle. Il y a l'épisode numéro 1 et numéro 2, début d'un arc qui s'appelle The Adamantium Man. Le scénario, on retrouve Jason Aaron et au dessin Ron Garney, donc le tandem qu'il y avait sur Get Mystique,
Justement,
par
ouais, dont on
exemple.
parlait tout à l'heure.
Voilà, c'est pour ça que j'en reparle en fait.
Ah,
Et alors le premier truc qui me vient à l'esprit quand j'ai lu ça, mais c'est que c'est hyper brutal.
oui, ça fallait s'y attendre. Jason Aaron qui fait aussi Scalped, hein, dont on a parlé. Voilà, donc c'est pas pour les petits enfants, quoi. Et
Pas
comme
du tout.
Panini fait toujours, enfin met toujours un petit macaron pour un lecteur averti, le problème c'est qu'à force de mettre ce petit macaron, il n'y a plus trop de degrés, tu vois. Ils peuvent mettre ça sur un X-Men qui est pas super violent, et ils mettent le même sur un Wolverine qui est vraiment, pour le coup, très très trash quand
Ah
même.
ben on a une scène où il tranche une main qui est quand même vraiment explicite.
Ouais. Non, ça devient assez gore. En fait, les comics Marvel, certains craignaient d'ailleurs que ça devienne assez soft avec Disney. Au fait, bon, à mon avis,
Bon,
il
là,
y
le
aura
deal
très peu
n'était pas encore
d'influence.
signé, hein. Le deal n'était
Ouais,
pas
non, mais
encore signé
enfin,
pour cette époque-là.
même d'une manière générale, je pense pas que ça influe sur cette série, par exemple. Mais au-delà de ça, c'est vrai que ces dernières années, on lorgne un petit peu du côté tu sais, des mangas d'un point de vue de la violence, quoi. Quelquefois, c'est vrai que c'est de plus en plus gore, quoi. Il y a du sang. Maintenant, ça devient banal, quoi, de voir du sang. Mais
Ben,
là,
il suffit de regarder le journal télévisé pour s'en rendre compte, hein.
non, non, mais bien sûr, non, mais on
Non
va
mais
pas
je veux
dans le
dire,
débat.
c'est notre société en ensemble, hein, qui devient comme ça. Donc les
Ouais.
comics évoluent avec la société, ils sont quand même un reflet de notre société. Donc c'est pas, ça m'étonne pas. Disons que ça m'étonne si d'un côté parce que là j'ai trouvé que la scène était quand même visuellement en tout cas super super
C'est
marquante.
gore quoi, en fait, c'est gore
Oui.
quoi, c'est vraiment voilà quoi.
Donc voilà, ça m'étonne pas qu'on en vienne à plus de violence dans les comics. Hein. Ça c'est. En même temps, qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'un mec à des griffes? À force de le voir toujours sortir ses griffes mais jamais transpercer quelqu'un, on n'y croit plus une seconde non plus, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Non, non, ouais, enfin voilà quoi. Tout ça pour dire que bon, Wolverine, d'une manière générale, c'est toujours un cran au-dessus au niveau de la violence, mais là voilà, là c'est même bon. Ça démarre très fort, quoi.
Voilà, donc le pitch de cet arc, c'est que Maverick, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, revient. Et
Ouais.
donne à Wolverine des infos comme quoi il y aurait un nouveau projet Arme X.
Voilà. Ce qui est pas trop étonnant pour une série qui s'appelle Weapon X, comme
Ouais.
Bah, comme le Weapon X de l'époque, quoi.
Donc voilà, et donc Wolverine décide d'aller enquêter et s'aperçoit qu'il n'y a pas non pas une arme X, mais
Mais une armée.
un nombre gigantesque.
Oui, voilà, quoi, une armée de d'armes X, en fait.
Ouais, c'est ça. Et, alors franchement déjà c'est beau parce que bah, Ron Garney c'est quand même joli. C'est plein d'action, ça rentre dedans. Bon voilà quoi, pour moi c'est pas la série du siècle, mais c'est plutôt bien, c'est efficace et ça se laisse vraiment lire.
Ouais, non, c'est sympa, c'est sympa. Voilà. Donc un début logique, hein, comme je te disais, Arme X, donc forcément, on reparle de ce projet. Bon, voilà. J'attends de voir la suite. Mais qu'est-ce qu'on peut dire?
Il y a des choses. Ouais, vas-y, excuse-moi, vas-y.
Voilà, il rencontre par exemple ce personnage de la journaliste qui, à mon avis, va devenir un personnage récurrent, j'imagine.
C'est ce dont j'allais parler exactement. Ça, moi, ça m'a fait penser à la relation qu'avait Cable avec Irène Merriweather à l'époque où c'était Joe Casey au scénario. Donc, ça remonte à peu près à Cable numéro 50 par là. Où en fait, t'avais cette journaliste qui le suivait, qui faisait un peu les chroniques de Cable. Et j'ai l'impression qu'on se dirige vers ce type de relation-là.
Ouais.
Où elle va raconter un peu ce que fait Wolverine, quoi, dans une
Oui,
sorte
puis
de
en quelques
confidente.
pages, Aaron parvient à rendre ce personnage assez sympathique et assez attachant. Tu vois, on la voit chez elle, elle se pose des questions.
Elle reçoit un coup de fil qui lui dit enquête sur le projet plutôt que sur
Oui.
Wolverine.
Oui,
Et qui
ça m'a fait
illustre.
marrer, ça
Je
fait un
pense que c'est
peu.
Maverick hein, qui a dû l'appeler. On ne sait pas qui c'est, mais moi je pencherai pour Maverick.
Ouais. Certainement. Enfin voilà, donc bah
Il y a une chose qui est géniale, c'est la première page du deuxième épisode où on a cette réunion de journalistes pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont mettre en première page parce que c'est elle travaille au San Francisco Post. Et cette page-là fait le lien avec toute la continuité de l'univers Marvel. On nous explique que bah il y a eu le Dark Reign, il y a tout ça. On nous fait aussi le lien avec la série Wolverine Manifest Destiny qu'on avait lu. Je pensais qu'il n'y aurait jamais aucun lien avec ça, mais que les gangs des triades, il y a moins de criminalité a été en baisse, etc. Mais, voilà, il nous a placé le truc et on sait à peu près à quel moment c'est dans l'univers Marvel, en une page ou deux. Ce qui, déjà, nul n'empiète pas sur l'histoire, pas plus que ça en tout cas. Et ça mérite de nous placer les choses, et ça j'aime bien quand on nous fait ça, c'est-à-dire un petit rappel pour nous dire bah on en est à peu près à tel moment. Donc non, je sais pas, c'est des petits trucs comme ça. Bon, pour moi en tout cas, ça démarre bien. J'attends de voir la suite, peut-être que ça va complètement s'écrouler ensuite et que ça va devenir ridicule. Mais voilà, bon, on a ces. Il y a le petit côté ridicule comme avec ces espèces de griffes fluorescentes qu'ont les autres du coup
Oui, on
Marvel.
dirait des griffes sans kryptonite, mais bon, on n'est pas dans Superman.
Ah, moi ça m'a fait presque penser à des sabres laser façon Star Wars, tu
Ah d'accord, oui.
vois.
Ah oui, toi tu les vois plus en laser, quoi.
Un peu, ouais, mais bon, c'est vrai qu'aussi le rapport avec la kryptonite est là aussi. Hein.
D'accord, oui.
Puis bon, on a une attitude de Wolverine qui est genre de s'enfuir pour mieux rebondir. Bon, voilà. Je sais pas. Moi, je trouve que ça peut le faire avec Jason Aaron, ça peut le faire.
Ouais. Ah
Même si
voilà,
j'avais pas
donc.
été particulièrement estomaqué par son arc Get Mystique, j'avais pas trouvé ça très très bon. Là, je sais pas. Je lui donne sa chance en tout cas, ou de la série, je vais lui donner sa chance. Continuer pour voir ce que ça donne.
Bon, bah, on peut enchaîner, je
Ouais,
pense.
je crois que là c'est bon, hein, il n'y a pas grand-chose à dire. Lisez-le pour vous faire votre avis. C'est du Wolverine brutal comme on aime, quoi.
Oui, puis surtout, c'est le début d'une nouvelle série, donc c'est un bon jumping point aussi.
C'est certain, oui, ça c'est sûr.
Donc allez-y, quoi. Si vous n'avez pas démarré Wolverine, bah, c'est le moment.
Allez, on va passer maintenant au dernier mag mutant de ce mois-ci. C'est le Astonishing X-Men numéro 59. Alors, autant dans les pages du X-Men, on commence un crossover, donc Utopia, que cette fois-ci, dans Astonishing X-Men, on commence aussi un crossover, la rencontre entre X-Force Cable, d'ailleurs c'est le nom du premier épisode, X-Force Cable, Messiah War. C'est donc déjà la deuxième partie de cette fameuse trilogie, où on avait eu la première partie qui s'appelait Messiah Complex. Et donc là, on a Cable, le X-Force, pardon, qui est envoyé dans le futur à la recherche de Cable pour le ramener, et récupérer le bébé.
Ah, surtout récupérer le bébé, ouais.
Ouais, bon, Cable, enfin, Scott a quand même envie de sauver son fils, donc, enfin, c'est
Ouais.
son fils. Peut-être, alors, c'est en même temps un point fort et en même temps un point faible, je trouve, c'est qu'il y a quand même beaucoup de pages pour nous faire un rappel de tout ce qui s'est passé. Alors, c'est très
Oh.
bien pour les gens,
Ouais, au début, ouais, t'as
qui
raison,
n'auraient
oui.
pas lu tout ça. Bah, il y a quand même 15 pages à peu près, hein, qui font le rappel. sur l'épisode qui est un peu plus gros que d'habitude, hein, c'est un épisode double, mais
Bah, c'est peut-être pour ça que c'est un one shot aussi.
oui, bah de toute façon c'est la nouvelle méthode aussi des crossovers en général. On commence par un one shot et après on va dans les séries régulières. On avait eu le cas avec Original Sin entre Legacy et Wolverine Origins. On avait eu le cas donc avec Messiah Complex.
Et
On a eu le
avec
cas
Utopia.
avec Utopia, là avec Messiah War. À chaque fois ils nous font le coup un one shot suivi de trucs dans les séries régulières. Bon, moi je te dis le côté rappel, c'est bien. Pour ceux qui voudraient prendre le crossover qui voudraient prendre le crossover sans avoir lu les séries, pour ceux qui les ont lus, ça fait quand même 15 pages. Voilà, enfin moi je m'en rappelle en tout cas, ça m'a un peu fait chier d'avoir pas. Je vais pas dire que c'est 15 pages gaspillées, mais voilà quoi, ça moi je me rappelais de tout ça. Donc bon. Alors d'un côté pour les nouveaux lecteurs c'est bien, d'autre côté pour les anciens lecteurs, bon, voilà. Il y a du bon dans. Il y a du bon et du moins bon, quoi. C'est. Voilà. Bon, après, l'initiative est quand même là, c'est déjà ça, quoi.
Enfin, moi, dans le même nombre de pages et en faisant un petit backup, ils m'ont bien plus accroché avec Messiah War qu'avec Utopia là sur le début, avec un nombre équivalent de chapitres puisqu'on a eu
Ouais.
les deux premiers
Ouais.
pour les deux. Et là, franchement, moi, je suis, enfin voilà quoi, j'ai vraiment envie de découvrir la suite et ça m'intéresse. Et surtout, ça me fait penser à, je sais pas, un vieux crossover X-Men, tu vois, comme on n'en faisait plus depuis longtemps, quoi.
Bah, il y a un côté un petit peu. C'est peut-être aussi parce qu'on a le retour de Strife, un petit peu Executioner Song, ce genre de choses-là, quoi.
Et puis le retour de Strife, moi je l'ai trouvé très bien amené, quoi. Parce qu'au début, je voyais pas du tout. Enfin, tu vois, je me disais, bon, c'est Cable, et au fait, c'est tout bête, c'est Strife. Mais, enfin voilà, c'est la fameuse personne que Bishop rencontre donc dans le bar, qu'on voyait il y a plusieurs mois déjà.
Bishop d'ailleurs qui est devenu un spécialiste du mensonge hein, quand même. C'est Cable qui a tout détruit alors qu'il sait très bien que c'est lui. Enfin,
Ben, Bishop, on a l'impression, enfin c'est bizarre parce que c'est vrai qu'il a beaucoup changé ces derniers mois, il est vraiment devenu un sale type. Même s'il avait de bonnes raisons, là on a l'impression que vraiment, voilà, il se convainc lui-même de sa bonne foi, alors que bah il sait très bien que de toute façon tout ce qu'il raconte c'est des mensonges quoi à force.
on
Enfin
a
c'est
donc.
étonnant quoi de sa part, il a vraiment changé quoi. C'est
Moi, je comprends pas trop où le personnage veut en venir, quoi. Bon, je veux bien qu'il veuille sauver sa réalité, enfin empêcher cette mauvaise réalité dans laquelle il a vécu, mais enfin, à ce point-là, c'est quand même violent, quoi.
Bah oui, parce que pour empêcher cette réalité d'avoir lieu, il en crée plein d'autres, des réalités épouvantables.
Ben, il a détruit tout le monde de manière à laisser plus que les États-Unis pour pas que Cable puisse partir ailleurs dans les États-Unis, puis principalement Westchester pour l'avoir, quoi. Il a détruit tout ce qui restait, sauf un petit point, de manière à ce que Cable ne puisse plus aller qu'à cet endroit et pouvoir le choper quoi qu'il arrive.
Ouais. En fait, il considère que son...
Stratégiquement, c'est très bien. Maintenant, moralement, comme il se dit que de toute façon, vu qu'il va empêcher cette réalité d'arriver, tout ça n'aura pas lieu. Enfin, quand même, quoi. Il est responsable de la mort de tout le monde, quoi.
Ouais,
Du
en
monde
fait,
entier.
en gros, il considère un petit peu son monde comme enfin, son but principal et le reste des autres univers, on peut dire que bon, bah, il s'en fout, quoi.
Voilà.
En gros, puisque il bouleverse tout, il tue des milliers de personnes, des millions même, et
Ah bah
puis
tu peux même dire des milliards, hein.
des milliards, ouais,
Ah bah
à ce
oui.
niveau-là.
Bon, il a détruit toute la Terre, il reste plus que les États-Unis. On a vu ce qu'il en reste de toute façon.
Puis sur des milliers d'années, en plus.
Puisque là maintenant on est quand même rendu en 2973, je crois. J'ai pas noté la date, mais quelque chose comme ça. Donc on a vraiment fait un bond d'un millier d'années quasiment. Donc,
Ouais, 1 millier, ouais. 1 000 ans, quoi. Sur 1 000 ans, il fait le travail d'Apocalypse, le mec.
on a donc X-Force qui se retrouve à la même époque que Cable, et en débarquant, on retrouve aussi un Deadpool. Un
Ah oui,
Deadpool
alors
qui a
ça c'est très
survécu
drôle.
pendant 800 ans dans un frigo.
Ouais,
Enfin bon, ça,
c'est énorme. Et franchement, le backup, alors je sais plus si c'est dans la
c'est dans
première ou la
Cable,
deuxième partie.
ça, c'est dans la deuxième partie.
Bah alors bon, on en parle peut-être après, non,
Oui,
comme
bah
tu
de toute
veux.
façon, on va l'annoncer maintenant, hein, Cable volume 2, numéro 13. Scénario de Dwayne. Ah, j'avais même pas donné d'ailleurs les auteurs de la première partie. Le one shot était fait par Chris Kyle et Craig Yost.
Ah non, c'est l'inverse. Greg Kyle et Chris Yost.
Ah, pardon, oui. Kyle et Yost, voilà, hein, comme ça je me
Voilà,
tromperai pas.
exactement.
Avec au dessin Mike Choi et Sonia Obak. Et donc pour Cable numéro 2, volume 13. Volume 2, numéro 13 plutôt. J'ai du mal là. C'est Dwayne Swarzynski au scénario, Ariel Olivetti et Jamie McKelvey au dessin. Voilà, donc là le tour est complètement fait. Dans ce deuxième épisode, on apprend comment, enfin un petit peu comment Strife est devenu le maître, puisqu'ils ont découvert cette espèce de grande cité qui est ni plus ni moins que le vaisseau d'Apocalypse.
Oui.
Moi, ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est que on apprend qu'en fait Strife a éliminé Apocalypse. On nous dit pas encore comment, pourquoi. Ça se sera expliqué, j'imagine, dans les prochaines parties. Mais voilà, enfin, je trouve ça presque trop facile. Aidé de Bishop, il a détruit Apocalypse et il a réussi à se venger.
Oui. Non, mais moi aussi, ça m'a semblé bizarre, quand même. Un petit peu facile. Alors, est-ce que Apocalypse, justement, ne se paye pas leur tête? On va voir, hein,
Ouais,
je
c'est
sais pas.
possible. C'est possible aussi. Et donc, c'est dans cette deuxième partie qu'on a le tout, que Deadpool raconte son histoire de comment il a survécu pendant ces 1000 ans.
C'est énorme. C'est vraiment. Alors là, c'est. J'étais mort de rire, quoi. C'était en gros, donc il était dans un caisson frigorifique, quoi. C'est ça, hein. Une
Dans un
espèce
frigo.
de. Oui, dans une espèce de. Enfin, une grosse salle réfrigérée, quoi. Puisque c'est un truc à entreposer les côtelettes, à mon avis. Et au fait, il parle de la fin du monde et il entend même l'explosion. Il y a tout qui tremble et il dit même, allô, il y a quelqu'un? Et puis après, il crie maman.
Mais comme il le
Donc
dit, il
enfin.
utilise le stratagème d'Harrison Ford, alors qu'il se rappelle plus qu'il était Harrison Ford qui était dans Indy 4 en fait.
Ouais, et donc comment dire, il fait des morpions pendant des milliers d'années, il se crée une double personnalité avec laquelle il parle, enfin, la manière dont il explique ça, puis
Il
les
avait pas
images.
besoin de ça, quoi. Il explique d'ailleurs même que c'est sa deuxième personnalité qui a gagné.
Ouais, il fait des jeux du pendu, enfin bon, c'est vraiment ridicule, quoi. Et en plus, à chaque fois, il est entrecoupé par, enfin, il est coupé par Wolverine dans ses explications, parce qu'à chaque fois, il y a Wolverine qui lui dit, bon, abrège, dépêche-toi de te raconter ton histoire, parce que c'est vraiment ridicule. Enfin bon, bref, voilà, quoi, c'est vraiment
Bah,
super comique.
c'est du Deadpool, quoi. C'est du Deadpool.
Ah oui, non, mais c'est du Deadpool, mais franchement, ça m'a étonné de ce scénariste, parce que je le mettrais bien sur Deadpool, lui, hein. Quand il sort des gags, en plus à la fin, il y a les mecs qui arrivent et il leur dit, je sais plus, il y a le gag de la pizza là qui m'avait fait mourir de rire aussi.
Ouais, que quand les mecs viennent le libérer au bout de
Oui,
800 ans.
au bout de 800 ans, il leur dit, j'espère que ma pizza sera gratuite parce que vous avez mis plus que de 30 minutes. Enfin
Est-ce qu'aux
bon, bref.
États-Unis, plus de 30 minutes, les pizzas gratuites? Enfin,
Ouais, faut. Ouais, en
c'est pas le cas
France,
en
ils le font
France,
pas ça. Non.
hein.
Non, en France, tu bouffes ta pizza froide et tu fermes ta gueule.
Et tu payes le prix fort.
Et tu payes le prix fort, tu payes plus cher même. Enfin bon, bref. Alors on part ailleurs là, bon.
Voilà, bon, il y a des dissensions aussi dans l'équipe hein, qui commencent à pointer le bout de son nez entre Cable et Wolverine.
Oui, puis il y a surtout aussi ceux qui voulaient rester dans le temps présent, puisqu'il faut rappeler qu'ils ont été interrompus, X-Force, en pleine.
Oui, ce qui a mené à la mort de Boom Boom d'ailleurs.
Voilà.
Ils ne sont pas au courant encore et quand ils vont le savoir, d'ailleurs, Wolverine dit clairement, je vais lui faire payer à Cyclope, quoi.
Ouais.
Donc le retour aussi au temps présent risque d'être mouvementé.
Risque d'être mouvementé, et puis Cyclope est de plus en plus. Enfin, ça, on le voit pas là dans l'épisode, mais c'est sûr qu'il a des décisions de plus en plus extrêmes et de plus en plus personnelles, quoi. Il s'en fout, en fait, que Boum Boum peut se faire tuer. L'important, c'est de récupérer le bébé. Enfin, le bébé, c'est plus un bébé d'ailleurs. Hop, espoir.
Et puis Cable, si possible, quoi. On a un petit moment où Archangel entend quelque chose au loin. C'est pas ce que c'est.
Bah, à mon avis, c'est ce qui arrive à la fin, en fait. Enfin, il pressent l'arrivée des espèces de soldats là qu'on voit à la fin.
Je sais pas. Je sais pas. On aura
Mais
la
à mon
réponse dans les
avis,
prochains épisodes de toute façon.
c'est un rapport avec Apocalypse. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il ressent qu'il y a Apocalypse là-dessous, que voilà, puisque c'est un ancien.
Bah, c'est l'ancien Death, quoi, enfin
Ouais.
l'ancien mort, quatrième cavalier, quoi.
Donc, il
Donc
doit avoir un lien psychique,
aussi vu
mental.
qu'il a repris son ancienne forme d'Archangel, c'est possible. Ouais. On aura la réponse dans les prochains épisodes. En tout cas, bon, le crossover, moi, pas si mal que ça.
Ah, moi j'ai vraiment
Presque
moi j'ai vraiment
préféré,
aimé
quoi.
quoi.
Ouais. Presque
Ouais.
préféré à Utopia.
Ah, moi j'ai carrément préféré, ouais. Alors là, il n'y a pas
Bah,
photo.
c'est deux
Non mais parce
histoires
que
différentes.
Utopia, le truc, c'est que je connaissais déjà le pitch, on connaît déjà le pitch quand on aborde l'histoire, on sait que c'est Dark Avengers contre Dark X-Men. Là, on sait pas trop où ça va aller, quoi. Tu sais simplement que bon, ça s'appelle Messiah War et que les X-Force et Cable se retrouvent ensemble, mais sorti de là, voilà.
Et surtout
Donc
qu'ils n'ont pas la même vision des choses, quoi.
ouais, voilà, non, mais je savais pas du tout ce qui allait se passer, et la preuve, par exemple, l'apparition de Deadpool, c'était totalement. Enfin, moi je m'y attendais pas du tout, quoi.
Moi non plus, honnêtement, non, pas du tout.
Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite et bonne petite saga qui fleure bon les années 90 ou les années 80 au choix, bon, les crossovers quoi,
Les bons vieux
les...
crossovers de l'époque.
Voilà.
Ok, épisode suivant, c'est le X-Factor volume 3, numéro 41. Toujours Peter David au scénario, Valentino De Landro et Marco Santucci au dessin, ancrage de Pat Davidson et Marco Santucci. Santucci plutôt, pardon. Genre, je veux pas un T quand même où il n'y en a pas. Alors là, il se passe beaucoup de choses. On a quatre, enfin, on va dire équipes entre guillemets différentes.
Ouais.
Madrox qui se retrouve face à Layla, parce que c'était le retour de Layla le mois dernier, on avait tué la fin pour justement pour le côté surprise. Elle vient le voir et avec la fameuse phrase à la Terminator, viens avec moi si tu veux vivre.
Ouais.
Voilà, qui l'emmène en fait dans le futur.
Ouais, qui l'emmène dans le futur. Et on sait pas d'ailleurs ce qu'elle vient faire là, parce que bon, d'un seul coup, elle est devenue adulte. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est une projection holographique? Enfin, tu vois, un truc un
Ben,
peu...
c'est ce qu'elle dit en fait, c'est une projection, mais qui arrive à le ramener dans le futur. Hein. De toute
Ouais.
façon, on le voit bien à la fin. Et pourquoi elle est venue? Elle est venue le chercher pour le sauver, vu ce qui se passe ensuite. Donc voilà. Et puis de l'autre côté, on voit X-Factor qui reprend son rôle un petit peu d'agence de détective pour aider cette fille qui se croit suivie et qu'on avait déjà vue dans les pages d'X-Factor d'ailleurs. Et on a encore une autre partie d'équipe qui, elle, travaille pour le gouvernement et pour Val Cooper.
Et
Donc
on
on
a
a.
aussi une
Oui.
quatrième chose, c'est le Madrox resté dans l'église,
Voilà.
qui se retrouve face à un mec, on ne sait pas qui c'est au fait.
Un Terminator.
Un espèce de Terminator, oui, qui dit Cortex et qui suicide, quoi.
Voilà. Donc oui, on a. Il se passe pas mal de choses.
Et puis.
C'est. Non, c'est bien. Franchement, c'est bien.
Ouais, non, et puis surtout les dialogues toujours qui font mouche et qui sont très drôles. Il y a toujours plein de
Ah,
gags au fait.
bien sûr.
Par
On
exemple
a quand
avec
même. Oui, enfin, excuse-moi, vas-y,
ouais
finis.
avec Longshot, il y a toute une tirade avec la nana donc qui demande l'aide d'X-Factor et Longshot et c'est super drôle quoi. Bon enfin je vais pas révéler ce qu'ils disent
Oui.
quoi, mais c'est toujours très comique.
Et pour terminer, on a quand même le retour de Ruby Summers.
Ah oui, je savais pas qui c'était moi en
Bah, on l'avait
plus.
vu dans le one shot sur Layla Summer. Sur le. N'importe quoi. Sur Leila Miller, pardon.
Ah
La fille de
ouais.
Cyclope, là, du futur.
Ouais, je m'en rappelle maintenant. D'accord. Ok, d'accord. Oui, d'accord. Oui, elle était dans le one shot avec Léla, donc c'est logique qu'elle réapparaisse là, effectivement.
Voilà. Donc c'est pas un personnage qu'on revient. Finalement, on a revu ce personnage, j'espérais qu'on le revoie. La preuve, bah, la voilà. Donc, bon épisode. Hâte de lire la suite aussi. Pour terminer, il y avait deux petits backups qui venaient de Manifest Destiny encore. Donc le premier était tiré du Manifest Destiny numéro 1, scénario de James Asmus. Donc toujours que. Enfin voilà, qu'on a vu que sur l'autre backup, comme tu nous en as parlé tout à l'heure dans X-Men. Dessin de Chris Burnham et ancrage de Nathan Fabern. Mon premier épisode est sur Boom Boom, sympathique, avec des dessins parfois vraiment cartoony.
Ouais, mais c'est drôle au fait, c'est quand même drôle
C'est
ce
drôle,
qui se
ouais.
passe quoi.
C'est drôle.
Ce qui m'a fait marrer, c'est surtout le passage justement sur FaceSpace.
Ah, FaceSpace, ça c'est terrible.
FaceSpace, oui, effectivement.
Un mélange entre Facebook et MySpace, c'est énorme.
Bah, c'est énorme, et puis au fait, justement, ce scénariste a l'intelligence de ne pas citer un truc qui existe, mais on comprend bien de quoi il s'agit, quoi. Et en plus. Les réflexions qu'elle fait à comment dire à Beast, c'est drôle quoi. Et puis tu vois la page, donc elle se rend sur une page d'une super vilaine, et tu vois parmi ses amis, t'as Rhino, t'as Mysterio, t'as Docteur Doom, et puis t'as leur tête, tu sais, t'as les photos. Enfin, tu vois, c'est vraiment ridicule quoi. C'est vraiment à mourir de rire.
C'est ridicule mais assumé, c'est ça qui est génial.
Bon, par contre, t'as la petite pub. Alors, je sais pas si. Bah non, ça n'a pas dû être changé pour la version française, de toute façon. Elle écoute apparemment Disturbia de Rihanna, donc ça existe. Et bon, ce qui...
J'ai pas fait attention à ça.
Ouais, bah, je sais pas. C'est marqué ça sur sa page. En tout cas, en français, c'est marqué ça. Mais ce qui m'a fait rire aussi, c'est qu'elle est née un 14 septembre, comme moi. Voilà.
Ouais, bon. Après, bon, Moi, je sais pas, j'ai bien aimé l'épisode, peut-être parce que Boom Boom, on venait de la voir mourir, et je me suis dit, bon, bah, tiens, c'est un petit côté. Bon, pourtant, ça a été publié bien avant, hein. Ça
Bah,
date de
ça a été
novembre
publié dans le
2008.
dernier, quoi, dans le dernier Astonishing, au fait.
Ouais, mais enfin, je veux dire, cette petite histoire date de novembre 2008, donc,
Ah oui, bien sûr, non, mais je pense
voilà.
qu'elle est là pour ça, au fait. Oui.
Voilà, bon. Voilà, c'est peut-être le fait de de voir Boom Boom, alors qu'elle venait de mourir. Voilà, c'est le petit côté, nostalgique, quoi. Bon, la fin est quand même super conne, quoi. Je veux
Ah
dire,
oui, la fin
la
est super
solution
conne. Ouais,
finale,
non,
elle est débile,
la fin, là, c'est vraiment
mais bon,
ridicule.
en tout cas, à mon sens, c'est totalement assumé, quoi. Donc c'est ça qui est
Ah oui,
cool,
mais
parce
c'est
que
totalement
comme c'est
assumé.
assumé, voilà.
Je sais pas comment c'est dit en anglais, mais là, c'est marqué à ne pas suivre, trois petits points.
Oui, ouais, ça doit être un truc comme ça, je sais plus exactement, mais en gros, c'est
Ça doit être marqué
ça ne
not to be
continuera
followed.
jamais. Ouais, voilà, un truc comme ça. Never to be continued, exactement.
D'accord, voilà, c'est ça. Enfin voilà, non mais franchement, voilà, un épisode vraiment, je sais pas, doit y avoir 8 pages,
Oui.
qui est quand même très drôle, quoi. On se marre bien.
On a le deuxième épisode qui est tiré, lui, du Manifeste Destiny numéro 2. C'est un épisode sur Juggernaut, scénarisé par Scotty Young et dessiné et ancré par Dan Panosian. Bon, voilà, on a Juggernaut qui prend un bar en otage et qui réfléchit, enfin, qui leur expose la situation et qui leur demande de décider un petit peu, savoir s'il est bon, s'il est mauvais et quel chemin il doit suivre.
Ouais.
Bon.
Bon. Moi,
Non
ça
mais
m'a fait
bon,
rire aussi, cet épisode,
ouais,
quand même.
c'est, on va dire rigolo et encore c'est gentil quoi, ça fait sourire et à peine.
Moi, ça fait sourire. Un peu
C'est
plus,
moins
un peu.
drôle, ouais.
Ouais, voilà, un peu plus lourdingue que le précédent. Bon, normal avec du Guernot, on me dira. Mais
Bon
voilà,
après, les
bon.
réflexions sur la moralité et sur les super-héros sortis par cette espèce de blondasse, ouais, enfin c'est de la petite psychologie de comptoir, quoi.
Bah, c'est le cas, oui. Bah, ça
Oui,
se
c'est le cas, oui, mais voilà, bon,
voilà, donc
pas grand-chose. Puis finalement, il décide de rester méchant.
ouais, puis non, mais ça fait un petit peu juste écho à l'épisode qu'on avait eu il y a quelque temps avec Xavier et Juggernaut dans
Exactement,
un bar.
exactement. Je me suis dit, c'est le même bar, et à la fin, on va voir Xavier qui arrive ou quoi. Et en fait, non, pas du tout. Mais bon, voilà. De toute façon, Juggernaut, si on le cherche, il est au bar.
Et oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc enfin, voilà, c'est comme il y a eu toute une période où Wolverine joue aux cartes avec la chose, je crois, hein, c'est ça.
Ouais, un peu, ouais.
Bah là voilà, c'est un truc récurrent chez Juggernaut, maintenant on le voit tout le temps dans un bar
Bah,
prendre boire un verre.
c'était déjà le cas, par exemple, la fameuse baston entre Colossus et Juggernaut, qui est
Voilà, ouais.
aussi dans un bar. Bon. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Bon, on voit que le mec se sent à l'aise au fur et à mesure, parce qu'au début, il est genre, il les tient tous en otage, puis après, il enlève carrément son casque. Je veux dire, il est devenu pote avec eux, quasiment.
Ouais, non mais il a besoin d'être écouté, quoi, au fait.
Ouais, c'est
Voilà, il a
ça.
besoin d'un auditoire.
C'est ça. Bon, un épisode qui casse pas des briques, qui restera pas dans les annales, mais bon.
Mais qui est drôle.
Ouais, ça se laisse lire, quoi. On aurait
Voilà.
pu avoir pire, donc voilà.
Bah les back enfin les ces épisodes-là sont plus drôles que ceux de dans le X-Men, quoi. Voilà.
Ok, on va passer à la dernière review de ce mois-ci, et c'est ce qui est sorti chez Delcourt en début de mois, c'est Incognito. C'est donc une nouvelle série par le duo Ed Brubaker-Sean Phillips, qu'on avait pu voir sur Sleeper, sur Criminal, bien sûr.
Ouais.
Publié là aussi chez Marvel sous le label Icon, le label des créateurs Owned. Donc c'est Delcourt qui s'est chargé de ça, comme je disais tout à l'heure. Et on a les 6 premiers épisodes de la série. Donc voilà, bon, on va être clair, c'est une très bonne histoire.
Ah moi j'ai vraiment aimé, ouais, très très bien, ouais, très très bien, très bon, écoute, alors déjà bon. Tu me disais c'est les 6 premiers, mais est-ce qu'il y en a d'autres finalement? Parce que c'est la question que je me
Alors, en
posais.
fait, Brubaker a annoncé qu'il ferait une suite dans le monde d'Incognito. Alors, on va savoir si ce sera avec le même personnage, si ce sera des spin-offs, etc. Une fois qu'il aura fini la série sur laquelle il travaille en ce moment, qui est Criminal de Sinners,
D'accord, ok.
qui sort en ce moment aux États-Unis. Alors, je ne sais pas combien d'épisodes a été décidé pour The Sinners. Je crois qu'il vient de sortir le 5 aux États-Unis, si je ne veux pas dire de bêtises, le 4 ou le 5. Donc, si c'est en 6, bah voilà. Normalement, il devrait s'y remettre après.
D'accord, parce que je me demandais effectivement, l'édition Delcourt donc s'appelle bien volume 1 projet Overkill. Et en fait, ce qui m'avait fait sourire, c'est que derrière, en fait, c'est marqué dans la même série et tu vois la même couverture, puisqu'il n'y en a qu'un en fait.
Bah pour le moment, oui, bien sûr.
Donc ça fait un peu bizarre, tu vois, d'acheter un bouquin et de voir derrière dans la même série le même truc, au
C'est
fait. Bon, enfin bref.
étrange, effectivement.
C'est un détail, mais bon.
Voilà, bon, l'histoire, en fait, c'est un super-héros, pardon, un super-vilain
Oui.
qui a décidé de rejoindre le programme de protection des témoins
Voilà.
après avoir témoigné, enfin, ouais. Oui, si, témoigner. J'étais en train de chercher le mot français, je me disais, c'est pas ça, si, c'est ça. Contre son ancien chef, et donc de devoir se racheter une conduite en passant par son agent de probation. Et voilà, et il vit une vie un peu de merde, quoi.
Oui, voilà, c'est ça, quoi. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que au début, on assiste vraiment au désarroi, au fait, de ce type qui vit une vie ordinaire après avoir vécu une vie extraordinaire en tant que super vilain. Et au fait, bon, bah, ça lui manque. Et au début, tu vois, je me disais, tiens, Ed Brubaker nous fait un petit peu son Wanted, tu vois. Je sais pas si tu l'as lu, Wanted.
Oui.
Tu vois, bon, sur le thème, tu vois, je me dis, bon, Wanted, c'était pas tout à fait ça, parce que c'était le fils d'un super vilain qui ne savait pas
Découvre,
d'ailleurs que les super vilains existaient,
il
mais qui
découvre son
découvre peu à
héritage en
peu.
fait, petit à peu, petit à
Voilà.
petit, quoi.
Là, c'est sur quelqu'un qui était super vilain et qui regrette sa vie d'antan et qui essaye de le redevenir, quoi. Et bon, au début, ça me faisait penser un petit peu à ça. Puis bon, après, ça évolue, c'est pas tout à fait ça non plus, hein. C'est vraiment une toute petite ressemblance de pitch au départ. Puis bon, au début, tu vois, je me disais, ouais, peut-être que ça va être encore un petit peu trop trash, tu vois, un petit peu trop dark. Et puis finalement, non. Non, c'est même drôle, et puis les dialogues sont vraiment très très bons, quoi.
Bah,
Vraiment
c'est
très très
du
bons.
bon Ed Brubaker, quoi, mais le petit reproche peut-être à cette série, c'est que quand on a le Criminal, qu'on a le Sleeper, etc., il y a moins d'impact.
Alors, en même temps, c'est pas pareil, parce que tu
Non,
vois,
mais on sait un
Incognito
peu à
au
quoi
début,
s'attendre.
sans avoir lu le pitch, je pensais que c'était encore justement un truc à la Criminal, et au fait pas du tout. Là, on est vraiment dans le thème des super-héros, des super-vilains, qu'il n'y a pas dans Criminal.
Bah,
Criminal,
déjà,
c'est
là,
dans
c'est le thème
l'univers.
de Sleeper à l'envers, quoi. Autant dans Sleeper, c'était un bon qui s'infiltrait chez les super-vilains et qui savait plus où être ou trop plus trop où était la ligne de conduite. Là, c'est plutôt l'inverse. C'est un super-vilain qui devient chez les bons, enfin en tout cas chez les gens normaux,
Ouais.
et qui sait plus de quel côté il doit pencher.
Ah d'accord, mais j'ai pas lu Sleeper en fait, donc d'accord, ok. J'ai juste lu Criminal, donc au fait, voilà
Si t'as
quoi.
pas lu
Donc
Sleeper, je t'y encourage.
ouais,
Vraiment,
bah
parce que
je.
c'est vraiment bien.
D'accord, ok.
C'est la première collaboration entre Brubaker et Sean Phillips, donc
En tout
voilà quoi.
cas, bon bah je suis assez fan de leur collaboration, en tout cas jusqu'à maintenant, non, franchement très très bon, très très bon. Bon alors, comment en parler
Bah, on va pas trop en révéler, je pense, parce que quand même l'histoire est à lire, je trouve, et à découvrir, parce que voilà, il y a déjà. Il y a le fait que bon, je pense que les gens qui auront acheté Incognito ont sûrement lu déjà Criminal, etc. Il y a déjà ce côté avec un petit peu moins d'impact, peut-être pas trop raconter l'histoire quand même. Voilà. Un autre truc aussi qui m'a gêné, c'est peut-être cette lecture en trade. Je pense que la sauce serait peut-être un peu plus montée si on avait eu. Enfin, si, en tout cas pour moi, si j'avais attendu entre les épisodes.
Disons qu'il y a deux parties, c'est en six parties. Donc bon, je distingue deux parties. On va dire il y a les trois premières parties dans lesquelles, pardon, le mec regrette sa vie de super vilain, et c'est assez drôle ces parties-là, parce que il essaye d'y revenir, mais en même temps il est surveillé, comme tu disais, par son agent de probation. Donc il y a pas mal de scènes assez cocasses quand même dans les trois premières parties. Non, enfin franchement, ce qui est super drôle, c'est, je sais pas si on peut le dire ça, mais franchement c'est tellement énorme. Ce qui m'a fait mourir de rire, c'est quand il, on le dit ou on le dit pas que.
Ben je sais pas ce que tu vas
Ah
dire
ouais, non,
donc.
il y a un moment, il y a son pote là
Qui le fait chanter, oui, bah oui.
qui le fait chanter, voilà, parce que bon, il a un pote un peu lourd qui se rend compte au fait que c'est un ancien super vilain, et donc il fait chanter, il lui fait faire ses basses besognes, quoi. Et à un moment donné, c'est hyper drôle, je crois que c'est son contrôleur fiscal, je sais plus.
Enfin, en anglais, c'est son landlord, alors on va dire son propriétaire en
Son
français.
propriétaire, ouais.
Ouais.
Et sur trois cases, au point, le mec retrouve sa voiture retournée. Alors une première fois, sa voiture est retournée. Ensuite, il en a une seconde. Elle est aussi retournée dans la même position. Il fait, oh non, c'est pas possible. Et la troisième fois, t'as la voiture retournée carrément en feu. Et il fait, oh non, c'est pas vrai. Et tout, le mec, il n'en croit pas ses yeux. Et il comprend pas comment ça peut être possible, quoi. Et non, il y a vraiment des gags. Il y a plein de scènes comme ça, au fait, dans les trois premières parties, qui sont très drôles. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie, Incognito, qui est bah, la partie où finalement, voilà quoi, il doit revenir plus ou moins dans le milieu. On va pas révéler comment ni pourquoi, Mais il doit revenir plus ou moins dans le milieu, et puis bon, c'est plus une partie super-héros, quoi, contre super-vilain.
Ouais. Mais là, en fait, la différence avec Criminal, c'est qu'autant Criminal, c'est du noir, ambiance un peu crime, etc. Autant là, c'est très porté sur le pulp. C'est vraiment un autre style quand même, puisqu'on a quand même le coup des gentils, des méchants, on a les scientifiques, on a des gadgets, des choses comme ça. C'est vraiment très pulp.
Oui, puis le mec, il a un petit côté spirit, le personnage principal. Enfin, il a un petit côté super-héros, ou super-vilain d'ailleurs, tu sais, tout basique avec son petit masque à la Zorro, quoi.
Ouais, enfin, il a quand même du sacré super pouvoir, hein.
Ah oui, non, non, bien sûr, non, mais je parle juste du look comme ça, quoi. Tu vois, ça fait vraiment, bon, ça fait vraiment, tu vois, cliché, quoi. Mais c'est pas dans le mauvais sens du terme, c'est justement.
Mais là où est la force de Brubaker, c'est qu'il nous a créé en 6 épisodes, et finalement, en se concentrant quasiment que sur un seul personnage, il nous a créé tout un monde avec cette équipe de gentils qui contrôlent les médias pour pas que la population s'inquiète sur les combats entre les super-héros et les super-vilains, etc.
Ouais, le SOS, quoi.
Voilà,
Ça s'appelle le
ça s'appelle le
SOS.
SOS, ouais.
Ouais.
Qui à chaque fois fait croire que c'est une tornade qui est passée. Enfin, il y a vraiment un contrôle des médias. Et puis cette équipe de super vilains qui détruit tout, quoi.
Mais c'est pour ça, tu vois, que je te dis, ça me faisait penser un petit peu à Wanted, parce que dans Wanted, t'avais le côté, bon, les gens, là, ne savaient pas qu'il y avait eu des super-héros, des super-vilains. Là, ils savent qu'il y en a, mais...
Ah, mais je te suis totalement sur cette idée. C'est sûr que ça ressemble à Wanted dans l'esprit aussi, quoi.
Ouais,
C'est
c'est un petit
clair.
peu. C'est pour ça que je te disais, bon, voilà, un petit peu le Wanted d'Ed Brubaker, mais par contre, enfin, c'est très bon, hein. C'est
Non,
vraiment très bon.
c'est très très bon, c'est sûr. Franchement, c'est une bonne histoire. Alors, c'est sûr que bon, il n'y a peut-être pas autant de surprises que la première fois qu'on lit un criminal ou un sleeper, mais ça reste une très bonne histoire et je pense qu'il ne faut pas passer à côté. Si on aime bien le côté un petit peu pulp et cette ambiance-là, quoi.
Et sur les autres persos, donc à part le personnage principal, donc qui s'appelle Overkill, Zach Overkill, il y a aussi, on retrouve quand même dans les personnages principaux, enfin ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il y a quand même une nana qui est vraiment une Maria Hill bis, quoi. Je sais pas si t'as eu cette impression, tu vois, sur le SOS, c'est un petit peu le Shield
Ah, je l'ai plus
avec.
vu style un peu Black Widow, moi, en fait.
Ah ouais, d'accord. Non, mais moi je la voyais plus comme Maria Hill, le côté voilà, très dirigiste, et puis elle est dans son espèce de. Tu sais, ils ont un espèce de ballon dirigeable, qui ressemble un petit peu au fait au. Ça reprend un petit peu le principe du héliporteur du Shield, et puis il se balade aussi en voiture volante comme les agents du Shield. Donc moi ça me faisait vraiment penser à une version alternée, quoi, du. Altérée, pardon, du
Mais
Shield.
tout ça, ce sont des racines qu'ils trouvent dans le pulp. D'ailleurs,
Voilà.
je sais pas si ça a été traduit en français, mais à la fin de chaque épisode américain, il y
Ouais.
avait un ami à lui qui a écrit tout un truc sur les héros des pulps.
Ah non, là, il n'y a rien, là.
Et qui, en fait, à chaque épisode d'Incognito, parlait un petit peu de ces héros les plus connus des pulps. Et donc, on a une. En fait, c'est à chaque fois ces 2 pages qui racontent un peu l'histoire. Et le personnage du pulp en particulier, donc on a The Shadow, on a Doc Savage, on a Fu Manchu, pas mal de trucs comme ça. Donc dans chaque épisode, il y en a un. Je les ai tous lus en même temps que j'ai lu l'Incognito. Et c'est très intéressant. On se rend compte un petit peu de l'influence qu'a eu le pulp sur les super-héros, sur cette histoire aussi là. Et il le cache pas, hein, de toute façon, Brubaker, que ça l'a beaucoup influencé. Donc voilà, et là c'est vrai que c'est purement influencé parce que son ami, je me rappelle plus son nom, je suis désolé, ce qu'il qualifiait de Zeppelin Pulp, où on avait des équipes qui étaient à bord de Zeppelin et où c'était leur base volante, quoi.
D'accord, ouais, ok.
Donc voilà, c'était des choses qui se passaient plus dans les airs. Non mais franchement, une très très bonne lecture et je vous encourage vivement à vous procurer ça parce que c'est très 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 bon. Je vois pas quoi d'autre. Ajouter à ça.
Bah écoute, à part que voilà, quoi, on pourrait même imaginer qu'un jour ce soit adapté, ce serait pas une mauvaise chose que ce soit adapté au ciné, quoi, puisque.
Ah, ça pourrait, oui, ça pourrait tout à fait le faire.
Parce que là, franchement, voilà, bon, autant on a Kick-Ass, autant ça, moi j'aimerais bien le voir sur écran, quoi.
Ah, on a de la matière, ouais, de quoi faire un bon petit film et qui demanderait pas tant de moyens que ça.
Par contre, effectivement, à l'inverse de Wanted, il faudrait pas que ce soit totalement, comment dire, changé, quoi. Il faudrait vraiment qu'ils gardent le concept, que ce soit bien plus fidèle, quoi, en fait. Voilà, comme adaptation.
Bien, mais ben c'est tout pour nos reviews de cette quinzaine.
Ouais.
On va se quitter. Avant, j'ai un petit message. J'ai découvert hier un podcast sur les comics, entre autres, en français. Donc, un nouvel arrivé qui s'appelle le One Night Club. Et je vous encourage vivement à aller écouter un petit peu leur podcast. C'est fait par deux personnes qui s'appellent Pierrick et Mathieu. Le podcast est très très bon, mais donc il traite de comics, mais pas que. Il traite aussi de manga et de bande dessinée. Et franchement, je leur souhaite longue vie à ce podcast parce que ils le méritent. Ils sont vraiment très pros et c'est très très bien fait. Et franchement, allez jeter une oreille, allez découvrir et parce qu'il, ouais voilà, c'est vraiment bien. Vous pourrez trouver l'adresse. De toute façon, je la remettrai sur le site. L'adresse du site c'est http://blog.jeudepied, jeu au pluriel et pied comme un pied, hein, tout attaché, .org.
D'accord.
Le podcast vient de passer bimensuel, un peu comme nous, c'est-à-dire tous les 15 jours, pour faire un podcast pour eux un peu plus court, mais un peu plus souvent. Voilà. Donc franchement, non, très 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 bien. Ils font un peu de tout et ils ont des bonnes reviews et voilà, c'est bien fait. Donc allez-y, ils le méritent. Sinon, deuxième petite annonce, le concours qu'on avait lancé avec MIG le mois dernier sur la création d'Avatar, on va le mettre en suspens. Pour le moment, on n'avait eu aucune réponse, on va le mettre en suspens jusqu'au retour de MIG, puisque pour le moment, il prend quelques vacances pour se reposer. Donc jusqu'à ce que MIG revienne, on va le mettre en suspens. Donc vous pouvez toujours envoyer vos avatars si vous le voulez, hein, il n'y a pas de souci. Mais bon, finalement, on n'annoncera pas, je vais y arriver, on ne va pas annoncer les gagnants au 30, j'attendrai que MIG revienne nos podcasts pour continuer. De toute façon, on vous laissera un message sur le site quand on aura défini une date pour la fin du concours, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc bah, ça, je vais rajouter, comme d'habitude, que vous pouvez nous retrouver sur iTunes. Tous les épisodes sur iTunes. Vous pouvez nous laisser des commentaires autant sur le site que sur iTunes. Ça nous permet de gagner en visibilité. On l'avait déjà dit, c'est vrai que je le répète peut-être pas assez. Laissez-nous des commentaires aussi sur iTunes, en bien ou en mal, mais ça nous apporte un peu plus de visibilité. Ça permet que le podcast soit mis en avant un petit peu par iTunes aussi quand il y a beaucoup de commentaires et beaucoup de reviews. Donc n'hésitez pas à nous laisser un petit mot là-bas. Et puis bah, comme d'habitude, hein, vous pouvez nous laisser les commentaires sur les articles, notamment sur l'article du podcast, si vous voulez réagir au podcast. Vous pouvez aussi réagir par mail à l'adresse podcast@comiccity.fr.
Et puis il y a toujours Facebook.
Et puis il y a toujours Facebook. Et c'est vrai que ces derniers jours, j'ai eu un petit peu moins de temps pour m'en occuper, donc j'ai fait un peu moins d'updates. Je vais essayer de trouver un peu plus de temps, faire un peu plus d'updates. Parce qu'en ce moment, c'est un petit peu la course un peu partout. Donc voilà, j'ai pas forcément. Beaucoup beaucoup de temps pour moi. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Bah, je vois rien là. Après ce long monologue.
Bah, des comics par milliers, de bonnes lectures, avec ce qu'on vient de lire et ce qu'on vient de reviewer, en français. Bah, y a vraiment de bonnes choses, donc
Ouais.
voilà quoi, faites-vous plaisir, allez-y, hein, incognito et puis le reste.
Bonne quinzaine, ouais. Et puis donc on se retrouve comme d'habitude d'ici une quinzaine de jours pour la fin du mois, pour la deuxième fournée des comics du mois, avec le DC, la librairie, il y aura aussi du Delcourt, pas mal de petites choses. Voilà,
Voilà.
voilà. Donc sur ce, comme d'habitude, d'ici la prochaine fois, portez-vous bien.
Et puis à bientôt.